Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
Le plan d'épargne retraite individuelle est une solution, comme je te le disais, assez révolutionnaire pour le client musulman lambda, puisqu'elle permet à la fois de préparer l'avenir, la retraite, mais surtout de défiscaliser, c'est-à-dire que les montants que tu vas placer chaque année, tu vas les déduire de ton revenu imposable.
Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Hassan.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, Matla, fais qui toi?
Ça va super, écoute, c'est un plaisir de t'accueillir sur mon podcast.
Bah écoute, c'est un plaisir partagé, surtout que je suis un fidèle auditeur de tes podcasts. Comme je te l'ai dit quand on a échangé la toute première fois, quand tu m'as proposé de participer, je t'avais dit que c'était une super initiative, qu'il y avait énormément de choses à tirer par rapport aux personnes que tu as pu accueillir dans tes podcasts, par rapport au retour d'expérience, et c'est vraiment... Comme tu le résumes, c'est bien, c'est vraiment inspirant. Et donc, bah, pour moi, c'est à la fois un plaisir et un honneur d'être avec toi aujourd'hui et de participer à ton podcast.
Bah écoute, je suis flatté et je pense que ça va être encore une fois un podcast inspirant, Inch'Allah.
Inch'Allah.
pour commencer, Hassan, je te demanderais de nous faire une petite présentation de qui tu es, tu as quel âge, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, d'où tu viens, etc.
Ok, Inch'Allah. Donc moi, c'est Hassan Nasseri, j'ai 35 ans. 35 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, donc ma fille, un garçon, une fille, un garçon. J'habite à Vigneux-sur-Seine, donc banlieue parisienne. J'ai grandi à Paris. Alors, je suis né au Maroc, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Puis, je suis arrivé en France, à Paris, dans le 18e arrondissement. Donc, voilà, les arrondissements qui sont un peu banlieue quelque part. Hein. C'est le début de la banlieue, on va dire. Et donc, j'ai fait toute ma scolarité à Paris. Et puis, bah, je me suis marié. Et puis, je me suis installé en banlieue parce que bah, les loyers, le coût de la vie à Paris n'est pas forcément accessible. Et donc, sinon, pour le côté études, donc, j'ai un master en finance, donc finance assurance. Et puis, j'ai fait une spécialisation, plutôt un MBA en finance islamique à Paris Dauphine à l'époque. C'est un master qui n'existe plus, il y a l'équivalent aujourd'hui avec Financia Business School. Je crois que tu avais accueilli aussi des personnes qui en ont déjà parlé avec toi lors des précédents podcasts. Et donc, côté professionnel, j'ai travaillé dans le domaine de la finance islamique. Je pense qu'on aura le temps de revenir sur ça, auprès de 570 CISI, où j'ai accompagné le lancement des différentes offres sur une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je travaille auprès de Perinis, donc une filiale toujours du même groupe que Easy, mais qui a d'autres objectifs dont on aura très certainement aussi l'occasion de discuter par la suite, en tant que responsable réseau de distribution. Voilà, pour te faire à peu près la totale.
Super, précis et succinct. Donc, quasiment toute ta carrière, en fait, tu as travaillé dans la finance islamique. Qu'est-ce qui t'a amené à t'orienter vers cette voie-là?
Effectivement, toute ma carrière dans la finance islamique, si ce n'est quelques stages que j'avais dû faire par le passé dans le secteur des assurances. Ce qui m'a amené, je pense que ma vie, en tout cas la conclusion que j'en tire, et je pense que c'est une conclusion qu'on partage un peu dans au regard de nos croyances et de notre éthique, c'est que pour moi, pour l'instant, ce que j'ai constaté, c'est que c'est une succession d'événements qui ont fait que je me suis retrouvé là. Et alors, je ne crois pas au hasard, bien évidemment. C'est des choses, quand on est quelque part, c'est pour une raison précise. Et aujourd'hui, on est en train de discuter ensemble, c'est pour une raison précise qui parfois nous dépasse, qu'on n'arrive pas forcément à saisir ou qu'on arrivera peut-être à saisir dans quelques années, à comprendre plus tard. Mais en tout état de cause, c'était pas du tout une volonté de travailler dans le monde de la finance. Pour être tout à fait honnête avec toi, moi, je me suis toujours vu travailler plutôt dans le monde militaire ou dans le monde de la sécurité, tu vois, policier ou gendarme, ou tu vois, mais un poste à responsabilité. Et donc, je savais très bien que pour avoir un poste à responsabilité, il fallait avoir un certain niveau d'études. Et donc, ce que j'ai visé, c'est surtout arriver à la licence ou au master pour pouvoir derrière prétendre à des écoles d'administration et puis de pouvoir occuper des postes dans le domaine sécuritaire gradé quoi. Et puis bah avec le temps je me suis rendu compte que c'était pas forcément évident, puisque ma pratique religieuse s'est un peu accentuée. Et du coup, quand tu regardes ce type d'école ou autre, c'est pas forcément évident de pouvoir pratiquer sa religion, voilà, tout en gardant, en se formant à ces métiers-là. Et du coup, il fallait se réorienter. Et donc, j'étais déjà engagé un peu dans la finance, puisque je voulais juste avoir un master. Et puis, ça s'est présenté comme ça. Et continue dans ce domaine-là. Et j'avais beaucoup de facilité à l'école. Donc, je fais partie de ceux qui arrivent toujours à s'en sortir sans trop d'efforts. Et quand je fais des efforts, je me sens encore mieux. Et du coup, je me suis retrouvé quelque part avec un master en finance. Pas la possibilité d'aller vers ce je voulais aller au départ. Et je me suis rendu compte en cours de route que finalement, ce secteur-là n'était pas non plus très en adéquation avec mes valeurs, mes principes. Le fait de travailler dans un secteur régi par la dette, par l'intérêt, riba et tout le reste. Donc, il fallait absolument. Bon, c'est quand même dommage parce que quand tu te retournes, tu viens d'arriver à la fin de tes études, quoi. Tu es en première année de master, il te reste une année donc pour pouvoir être diplômé et de commencer à travailler. Et puis finalement, tu te rends compte que le domaine dans lequel tu as étudié ne va pas forcément t'offrir la carrière que tu espérais parce que ça ne colle pas forcément avec tes principes. Et c'est pour ça que c'est qu'une succession comme ça, tu vois. Quand je regarde, je me dis, en réalité, c'est un enchaînement quelque part. Sans le vouloir, je me suis retrouvé là, à ce moment-là. Et en fait, c'est tombé au moment où je cherchais un stage. C'était la création et 570i. Donc, tu as déjà eu l'occasion d'accueillir dans tes podcasts Anas Patel, qui est le fondateur avec qui je travaille maintenant depuis le début de ma carrière, en réalité, qui venait de créer 570i avec Amina Daoud, que tu connais aussi. Et en fait, c'était au tout début, c'était les prémices, c'était le tout premier dossier. Ils avaient réussi à convaincre une banque française de faire un financement immobilier conforme à l'éthique musulmane, par lequel une banque accepte d'acheter un bien, de devenir propriétaire d'un bien, avant de le revendre à un client moyennant un bénéfice et une facilité de paiement. C'était sur, je crois, 5 ans, des sommes assez vertigineuses parce que c'était un footballeur. Mais l'idée, c'était vraiment plus d'ouvrir la brèche et de montrer que c'était faisable, qu'on pouvait faire ce type d'opération et qu'il n'y avait pas de blocage ni administratif, ni fiscal, ni réglementaire, que c'était surtout une question de volonté. Et du coup,
Donc 570i, juste pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, c'est une agence qui permet de, enfin à l'époque en tout cas, c'était focalisé sur ça, d'acheter un bien immobilier sans passer par le crédit bancaire, c'est ça.
Exactement, exactement. Au tout départ, c'était ça. C'était vraiment structurer des produits financiers conformes à l'éthique musulmane pour que le client français lambda puisse avoir cette alternative-là. Et le besoin 570i, effectivement, a toujours essayé de répondre aux besoins de la clientèle. Et donc, le premier besoin aujourd'hui, quand on discute avec quelqu'un qui souhaite avoir des moyens de financement alternatifs, c'est de devenir propriétaire de son bien immobilier. Donc, ils ont commencé par ce bien-là. Après, effectivement, entre-temps, il y a d'autres solutions. Peut-être on aura l'occasion de revenir dessus qui se sont développées, mais effectivement, c'est ça. Et donc voilà. Et donc, moi, ça tombait bien. Il fallait que je fasse un stage dans le domaine de la finance. Et donc, 570i venu de se lancer. Et du coup, j'ai commencé un peu à les harceler avec mes CV. Je me déplaçais à chaque fois partout où ils se trouvaient, partout où il y avait une conférence ou un événement, j'y allais, quoi, en leur disant, les gars, vous êtes dans la finance islamique. Moi, je vais être diplômé en finance. Il faut qu'on travaille ensemble, quoi. Donc, du coup, ils ont fini par accepter. Ils ont fini par accepter. Et depuis, j'ai réussi à devenir quelque part indispensable à l'entreprise que j'ai accompagnée. Donc, j'étais devenu le premier salarié à l'époque. Je suis rentré en tant que stagiaire, puis on a fait de l'alternance avec le master de Dauphine. Puis j'étais le premier CDI en tant que chargé de clientèle. Puis j'ai gravi un peu les échelons de la société en passant en responsable commercial, puis directeur commercial, puis j'ai fini directeur général délégué de la société. Et puis maintenant, j'ai quitté cette entreprise pour rejoindre une filiale du groupe pour reproduire à peu près le même schéma, accompagner la structuration commerciale de la distribution des solutions, des nouvelles solutions qu'on est en train de mettre en place.
Très bien, d'accord. On va revenir un peu sur tout ça, hein, mais d'ailleurs, j'avais juste une petite curiosité. J'avais oublié de demander à Anas Patel à l'époque, mais le nom 570i, tu sais d'où ça vient?
Ouais, je sais d'où ça vient. C'est effectivement, c'est une question que ça me rappelle les salons du Bourget, les salons quand on se déplaçait et que les gens me demandaient, ça veut dire quoi 570 i? Alors en fait, 570 i, il y a plusieurs petites anecdotes. Alors le 570 i, bon, il y a une divergence, mais c'est l'année de naissance du prophète alayhi salatu wassalam, donc soit 570, soit 571. Donc là, pour le coup, on a plutôt retenu 570. Et après, il y a d'autres principes. Le 5, c'est pour les 5 piliers. Les 5 piliers de notre belle religion, qui font aussi référence aux 5 principes de la finance islamique. Le 7, c'est pour les 7 cieux, et pour le 0, c'est le 0 riba, c'est le fait de développer des solutions qui contiennent pas de l'intérêt. Donc voilà. Et l'uzi, c'est un petit jeu de mots, un peu anglais, un peu français, pour dire que c'est facile, qu'au final, c'est pas si compliqué que ça de faire de la finance conforme à l'éthique musulmane en France et de façon générale dans le monde.
D'accord, bah écoute, j'apprends quelque chose, les auditeurs aussi, je pense. Donc, tu as passé 10 ans chez 570i. Qu'est-ce que tu as pu retenir de cette histoire avec eux?
Beaucoup, franchement, je pense que c'était une belle école entrepreneuriale. J'avais la chance d'être à la fois salarié. Mais l'intérêt de travailler dans ce type de petite structure, ça, c'est bien sûr des avantages et des inconvénients. Pour retenir plutôt les avantages, c'est qu'au final, tu participes vraiment à la vie de l'entreprise. J'ai eu la chance d'être avec Anas et avec Amine en direct. Donc déjà, pour quelqu'un qui vient d'être diplômé, Anas, avec son background, avec plusieurs années dans des grands groupes où il était directeur de la recherche et développement, où il a vraiment travaillé dans des groupes internationaux, et Amine, pareil, qui a travaillé dans des grands groupes, que ce soit en Angleterre et ailleurs, déjà, le fait d'avoir cette proximité avec ces personnes-là, c'est inspirant, ça montre aussi qu'on peut réussir, à la fois tout en restant intègre, en restant accroché à ses valeurs, on peut quand même réaliser des belles carrières, et puis surtout de se servir de ses connaissances, de cette expérience, pour construire quelque chose de beau pour la communauté, mais pour le pays de façon générale, puisqu'aujourd'hui, la finance conforme à l'éthique musulmane, c'est un potentiel économique important à l'échelle internationale. Et la France peut jouer un rôle assez important de par sa communauté nationale présente. Et puis par rapport à ses principes, on reviendra peut-être sur ça aussi. On sait qu'à chaque crise de 2008 notamment, les grands financiers, à l'époque Christine Lagarde, avaient vanté les mérites de la finance islamique, le fait d'exclure, de prendre en considération un certain nombre de ratios, notamment d'endettement, de se dire que l'argent n'est en soi pas une marchandise mais un moyen, et que toute opération doit être quelque part adossée à un actif réel ou à un service. Ça ramène quand même des règles prudentielles qui pourraient éviter des crises et qui pourraient ramener un peu plus de stabilité dans le monde financier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc le fait d'avoir travaillé avec ces gens-là, ça permet d'avoir déjà cette vision, et puis de se dire finalement c'est possible. Et puis ça donne aussi, ça valorise un peu son travail, puisqu'au final ce qu'on propose est pris en considération. Donc c'est des gens qui avaient beaucoup d'expérience, mais qui étaient prêts à écouter quand moi petit stagiaire ou petit alternant qui venait juste d'être diplômé, je participais à des réunions parfois avec des grandes banques ou même en interne, et on écoutait ce que j'avais à dire, ce qui n'était pas forcément le cas de mes collègues avec qui j'étais en classe et qui me racontaient un peu qu'ils étaient à la photocopieuse ou qu'ils étaient à l'accueil, et qu'au final personne n'écoutait trop ce qu'ils avaient à dire. Et donc après, derrière, la contrepartie, c'est que finalement, quand on sort d'un master, on attend généralement à avoir un gros salaire. Donc là aussi, c'est un choix. J'ai commencé avec le SMIC, après le diplôme. C'était un choix à la fois de conviction, parce que au final, le salaire ne peut pas se faire au détriment de ses valeurs. Je ne me voyais pas aller faire directeur d'agence ou travailler dans une salle ou je ne sais quoi, et gagner de l'argent, mais en étant pas bien en rentrant le soir, quoi, chez moi. Mais au final, c'était aussi un pari. Je me rappelle très bien quand on en parlait avec mon épouse, on avait fait les mêmes diplômes. Finalement, elle s'est redirigée plus dans l'immobilier. C'était la seule façon de travailler dans un secteur qui pose pas de problème d'un point de vue éthique. Mais quand elle voyait mon salaire, elle me disait, ouais, t'as fait un master pour te retrouver avec un petit salaire comme ça. Mais je me rappelle que j'avais dit, non, non, je pense que c'est. Bon, déjà, je lui dis tout ce que je viens de te dire, mais en même temps, je lui dis que c'est un pari sur l'avenir et que je finirai par dépasser toutes ces personnes-là par la suite, quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé, puisque aujourd'hui, alhamdoulillah, on arrive à bien vivre. Après, bon, c'est pas non plus des salaires de grands patrons, mais alhamdoulillah, on arrive à bien vivre dans des bonnes conditions. Nos enfants sont élevés dans des bonnes conditions. Et en même temps, on a contribué à mettre en place quelque chose d'assez grand. Alors, moi, avec ma petite pierre à l'édifice, mais c'est surtout ces personnes-là qui ont fait des grands sacrifices en quittant des postes très confortables avec des belles conditions pour venir se lancer dans l'aventure entrepreneuriale en France et de développer des alternatives pour la France. Et quand on regarde aujourd'hui, en fait, avant, ici, il y avait pas grand-chose sur le marché. Et ça, je pense que les gens ne se rendent pas trop compte de ça. C'est-à-dire que tu remontes à 2010. Avant 2010, il n'y avait rien du tout. Tu voulais devenir propriétaire sans riba, bah, il fallait mettre de l'argent de côté. En plus, il n'y a pas de solution d'épargne. Donc, tu laisses ton argent sur un compte bancaire. Avec l'inflation, bah, ça perd en valeur. Avec la zakat, bien sûr qu'il faut donner. Bah, voilà, tu thésaurises. Donc, quelque part, tu dois sortir. Et au final, pour pouvoir te mettre en place un capital, que ce soit pour investir ou pour entreprendre ou pour acheter un bien, bah, c'était très compliqué. Aujourd'hui, voilà, on va dire 10 ans ou 12 ans plus tard, il y a quand même des solutions d'épargne, des solutions pour devenir propriétaire sans riba et plein d'autres choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, c'est quand même quelque chose dans un laps de temps assez court qui reste assez extraordinaire par rapport aux moyens qu'on avait d'entrepreneurs, quoi. C'est pas un grand groupe qui arrive avec des grands fonds et qui se lance dans le domaine de la finance islamique. Donc, voilà, très, très, très enrichissant et ça prouve quand on a de la volonté, quand on travaille avec eux aussi. Avec conviction quand la niya est bonne, généralement ça finit toujours par payer. Ça prend un peu plus de temps, il faut de la patience, mais ça finit toujours par arriver au bout.
Merci pour ton partage, Hassan. Alors moi, je m'initie humblement à la finance islamique un peu de loin, je regarde un peu ce qui se passe et j'ai pu interviewer aussi beaucoup d'acteurs dans la finance islamique, donc je commence un peu à connaître un peu les mots-clés et ce qui se passe. Et je suis aussi ce qui se passe à l'étranger dans la finance globale. De mon regard extérieur, ce que je vois, c'est que en tout cas en France, pour tout ce qui est épargne chez les musulmans, il y a deux gros challenges, on va dire. Déjà, de manière générale, les Français et encore plus en particulier, je pense, les musulmans sont pas très éduqués en termes d'investissement, parce que c'est pas quelque chose qui est naturel, qui nous a été transmis, c'est pas quelque chose que nos parents, dont nos parents s'occupaient vraiment. Et la deuxième chose, c'est le challenge aussi pour créer tous ces produits financiers conformes à l'éthique musulmane. Je sais pas si toi tu es d'accord avec cette observation et si tu as pu voir d'autres challenges pendant ces dernières années.
Non, non, bah, je partage complètement. C'est pour ça, je pense qu'après avoir reçu toutes les personnes que tu as reçues, je pense que maintenant tu commences à devenir un expert
C'est un expert.
de la finance islamique. Parce que
En
il y a quand
matière.
même eu du beau monde, hein, mashallah, qui est passé dans tes podcasts. Et en plus, à chaque fois, tu posais des questions très pertinentes. Donc, j'espère que tu vas pas me poser des questions au piège, hein. Sinon, je partage complètement ton analyse. Je partage complètement ton analyse. Je pense que le problème de l'éducation financière, il n'est pas que lié à la communauté musulmane. C'est un problème français, de façon générale. En France, je pense que le socle commun à l'école, il traite un peu de l'économie, il traite un peu des questions plus économiques, mais on rentre pas vraiment dans comment est-ce qu'un produit est structuré, c'est quoi l'économie de dette, c'est quoi comment l'argent est créé, tous ces sujets-là restent un peu vastes, enfin tant qu'on n'a pas fait un cursus vraiment économique. Ce qui fait que parfois, moi j'ai été conseiller clientèle, je me suis retrouvé parfois avec des docteurs, avec des gens qui ont étudié vraiment des années et des années dans des domaines spécifiques, mais qui ne maîtrisaient pas du tout. Voilà, ils savaient pas du tout c'est quoi un produit d'épargne. Pour te faire le petit exemple, j'avais beaucoup un sujet avec des clients qui venaient qui me disaient, ouais, finalement, la murabaha, c'est trop cher. Ce que vous proposez là, c'est trop cher par rapport à un crédit classique. Et en fait, nous, dans tout ce qu'on a pu faire par le passé chez 570i, ils continuent de le faire, on a vraiment toujours essayé d'être transparent. C'est-à-dire que quand on affiche un prix, on essaie de tout intégrer dedans. Il n'y a rien de caché. Tu ne découvres pas par la suite qu'il y avait des frais de notaire cachés ou des choses comme ça. Donc, quand on te fait un calcul, à la fin, si on te dit la maison, elle va te revenir à 250 000, c'est qu'elle va te revenir à 250 000. Donc, on essaie vraiment d'être très clair là-dessus. Et finalement, ça, les gens n'arrivaient pas à comprendre parce qu'ils allaient dans une banque. Et c'est un exemple assez bête, hein, quand leur banquier leur disait, bah, je vais vous prêter à 2% d'intérêt. La personne pensait naïvement qu'en fait, il va prendre 200 000, il va rajouter 2%, et c'est ça qu'il va prendre.
Ouais.
Alors, il ne comprenait même pas que c'était 2% chaque année en fonction du capital restant dû,
Ouais.
et à la fin, en fait, ça va te faire 40 ou 50 000 euros, quoi. Donc, pour te dire, en fait, tu vois, le fossé qu'il peut y avoir entre ce qu'on pense être en termes d'éducation financière et vraiment ce qu'il faut, d'où on part. Et en fait, la communauté musulmane, et quand tu rajoutes cet aspect-là, bah, en fait, on est encore plus loin parce que la plupart des gens qui veulent pas toucher à riba, bah, ils ne se sont jamais intéressés à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en fait, moi, l'épargne, ça ne m'intéresse pas parce que de toute façon, je sais que c'est pas halal, quoi. Donc, ne me parle même pas du fonctionnement. Donc, ce qui fait qu'on part encore d'un peu plus loin. Donc, effectivement, il y a un vrai sujet. Alors, moi, mon avis là-dessus, c'est que ce n'est pas des institutions financières comme nous qui proposons des services de faire cette éducation. Mais on le fait quand même. On essaie lors des rendez-vous, d'expliquer un peu. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui doit plutôt se faire. Je ne sais pas si c'est les associations, s'il faut créer des associations ou des groupements, des choses comme ça qui vont justement se charger un peu d'éduquer les gens, parce que c'est super important. On sait qu'on a des récits dans notre culture qui dit que, par exemple, à un moment, tu ne pouvais pas rentrer dans un marché si tu ne connaissais pas les règles du commerce. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a des commerçants qui ne savent pas, qui pratiquent parfois des opérations commerciales qui posent problème. Pourtant, quand tu vas leur expliquer le principe de la mourabaha, ils vont dire que la mourabaha pose problème. Alors qu'eux, au quotidien, ils pratiquent d'autres types de transactions qui, là, pour le coup, il n'y a pas de doute. Ça pose vraiment problème. Donc, je pense que ça, c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet global d'éducation qu'on a dans notre communauté et puis d'éducation financière. Et moi, je vois aujourd'hui qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place, des personnes qui commencent un peu à se spécialiser là-dedans, à vraiment proposer uniquement des services de formation et de coaching financier. Alors, il y a à boire et à manger, hein. Bien sûr, il faut faire attention à qui on fait appel et comment. Mais je pense que en soi, c'est un service à part. Et les gens doivent être conscients qu'il faut effectivement s'instruire dans un premier temps et s'instruire dans les deux sens, c'est-à-dire sur le côté financier et puis sur le côté conformité. Parce que sinon, en fait, n'importe qui peut venir demain te vendre un produit, te dire, tiens, ce produit est performant, il va te ramener tant de rendement et en plus, il est halal. Si tu n'as pas les clés basiques pour te dire, pour poser quelques questions qui vont te permettre déjà de détecter ce que tu as en face de toi, bah, si on te le market bien, c'est fini. Et tu vas souscrire en te disant bah, c'est rentable et c'est halal. Et quelques années plus tard, tu vas te rendre compte que ce n'est pas rentable et que ce n'est pas halal. Donc, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Après, l'autre aspect, tu citais effectivement par rapport au fait que c'est compliqué, et je te le confirme, c'est très compliqué. C'est pas juste compliqué, c'est très, très compliqué. C'est pour ça que quand je t'ai dit tout à l'heure, je salue comment dire, l'abnégation de Anas et de Amine et de tous ceux de façon générale qui essayent de mettre en place des solutions parce que c'est pas facile. Et moi, pour le coup, j'ai vu ça de près, j'ai contribué aussi, j'étais dans des réunions où il fallait préparer tout ça et j'ai vu des acteurs venir et des acteurs partir. Et on voit très bien que seuls ceux qui restent, c'est ceux qui viennent. Bien sûr, il faut gagner sa vie, il faut vivre de ça. Mais qui viennent avec quelque chose en plus, c'est-à-dire cette volonté de vraiment contribuer à quelque chose, de mettre en place quelque chose. Et quand on n'a pas ça aujourd'hui dans le domaine de la finance conforme à l'éthique musulmane en France, si on n'a pas ça, si on vient juste pour se dire il y a un marché, il y a peut-être aller entre 3 et 10 millions de clients potentiels en France, ça dépend de quel chiffre on retient, bah ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est trop compliqué. C'est très compliqué. Mais par contre, par ailleurs, je pense que les choses évoluent bien. Je pense que les gens sont attentifs, que les partenaires avec qui on travaille aujourd'hui comprennent de plus en plus comment fonctionnent les produits, pourquoi est-ce qu'ils font un comité de validation, qu'il y a un marché. Je pense qu'aujourd'hui, ils le comprennent. Et ça, je pense pareil, c'est à nous, en fait. Là, je parle plus en tant que musulman français, c'est à nous en tant que consommateur. De faire en sorte à ce que ces produits-là, lorsqu'ils se lancent, rencontrent le succès. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, quand on va discuter avec des partenaires et qu'on leur dit, tiens, il faudrait développer un nouveau contrat d'assurance auto-conforme sur le principe du takaful, ou tiens, l'assurance habitation, ça pourrait marcher, ou tiens, il faudrait qu'on lance un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne en action conforme, bah, ils te disent, OK, montre-moi tes chiffres. Tu as lancé un produit l'année dernière, combien tu as collecté? Combien de personnes ont souscrit? Ah, 100? Ouais, ton truc, ça va pas trop marcher. Et donc, au final, si les gens ne souscrivent pas, Aujourd'hui, il y a des belles initiatives hein, sur le marché. Il y a Easy, effectivement, qui propose le financement immobilier, un produit d'épargne SCPI, un contrat d'épargne vie conforme à l'éthique musulmane. Pérennis, qui aujourd'hui, bon, on reviendra dessus, a lancé son plan d'épargne retraite individuelle. Une révolution aujourd'hui pour la communauté musulmane qui peut enfin défiscaliser, donc payer moins d'impôts tout en épargnant. C'est quelque chose qui n'existait pas. Moi, je rencontrais des médecins, ils me disaient, écoute, moi, j'en ai marre, je gagne bien ma vie. Mais à la fin, je paye 40, 50 000 euros d'impôts et mes collègues, ils font du madelin, ils font des mécanismes qui leur permettent de ne pas payer d'impôts. Et moi, ouais. Je suis le dindon de la farce. Je me fais avoir. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer? À l'époque, on n'avait rien. Aujourd'hui, on a des solutions. Mais voilà, ouais. Il faut que ces solutions-là, bien sûr, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut vérifier que ces solutions-là sont conformes, que ces solutions-là conviennent bien à la personne d'un point de vue financier, risque de perte en capital et tout ce qu'il faut, et que ça s'inscrit dans une stratégie patrimoniale. Mais lorsque ces cases-là sont cochées, ben, il faut y aller. Il y a aussi des initiatives comme Sakina Takaful, je crois que tu as ouais. accueilli Azdine qui a présenté ça. Je pense pareil, l'assurance décès qui s'occupe du rapatriement, c'est quand même le moment, enfin la fin, quoi. Il faudrait essayer d'avoir quelque chose de conforme. Je ne me suis pas encore renseigné sur la conformité, mais j'ai confiance en Azdine. Je pense que son produit est conforme et les consommateurs feront le travail nécessaire. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des belles initiatives, il y a des produits. Et ces produits-là, ils doivent être, comment dire, ils doivent être souscrits pour que derrière nous, les acteurs puissent convaincre encore d'autres partenaires. Et en fait, l'idée, c'est que demain, que tu puisses rentrer dans une banque ou dans un cabinet de courtage ou dans ce que tu veux. Et que derrière, aujourd'hui, comme quand on rentre chez Carrefour ou chez Leclerc, pour, je ne sais pas si tu as aussi, comme à la télé, tu sais, citer toutes les marques pour ne pas avoir de problème, quand tu rentres chez eux, ben, tu as un rayon halal, tu vois. Tu as un rayon halal où tu peux aller chercher des produits certifiés AVS que tu peux aller prendre et rentrer chez toi. Ça n'existait pas il y a quelques années. Ben, demain, il faudrait qu'on ait la même chose, que tu puisses rentrer dans une banque et que tu as un rayon ou un corner où tu peux aller prendre une assurance auto Takaful, où tu peux aller souscrire un produit d'épargne certifié, conforme, que ça soit pour toi ou pour un client non musulman. Aujourd'hui, il y a quand même on reviendra peut-être aussi là-dessus, les principes de la finance conforme à l'éthique musulmane peuvent intéresser d'autres clients qui ne sont pas forcément animés par cet aspect conformité, qui sont animés par d'autres aspects de diversification, de résilience à
des crises, d'autres choses.
Exactement, exactement. Et donc ça, aujourd'hui, c'est l'objectif. Mais pour ça, il faut que les gens adhèrent à ces produits-là. Et puis voilà.
Alors, on va revenir sur un peu tous les différents produits que vous proposez chez Pérennis hein, et sur le lien qu'il y a avec 570 Easy un peu plus tard. Mais avant ça, pourquoi est-ce que c'est important pour la communauté musulmane ou même pour n'importe qui, en fait, hein, d'investir son argent?
En fait, c'est important pour différentes raisons. Je pense que, alors, je suis pas savant, hein, je m'improvise pas du tout savant ni expert, mais je pense que l'un des principes, quand on parle avec les savants et qu'on essaie un peu de comprendre le principe de Zakat al-Mal, en fait, le Zakat al-Mal, c'est quelque part une punition qui vient, alors, c'est un impôt purificateur, mais un de son aspect, c'est aussi le fait de empêcher la thésaurisation. C'est-à-dire que l'argent qui circule dans l'économie est beaucoup plus bénéfique aux pauvres que l'argent qui dort sur un compte et les 2,5% que tu dois leur donner si tu dépasses le montant imposable. Donc ça, déjà, c'est le premier principe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des principes de base économique. Quand on échange, quand on investit, quand on fait travailler son argent, bah, ça crée de la valeur. Ça crée
donc,
de
l'argent qui bouge est mieux que l'argent qui ne bouge
exactement,
pas.
Exactement. Exactement. Donc déjà, pour les autres avant tout, et pour soi aussi, parce que quelque part, quand on va investir cet argent, bah, au final, on va aussi attendre une contrepartie. Et dans le monde globalisé dans lequel on est aujourd'hui, surtout dans l'économie de dette dans laquelle on est, bon, je pense que tu as vu, hein, il y a des pays aujourd'hui où on a des inflations à 30 ou 40%. Bon, nous, en Europe, on est encore à 9-8, mais très simple, c'est pour pas rentrer dans des principes économiques trop compliqués. Quand on a un taux d'inflation à 9%, ça veut dire que ton argent perd de sa valeur chaque année à peu près de ce montant-là. C'est-à-dire que ce que tu pouvais acheter l'année dernière, bah, tu pourras plus acheter la même chose cette année. C'est-à-dire qu'il te faudra rajouter 9% de plus pour acheter à peu près la même chose. Ouais. Donc, le fait de laisser ton argent dormir, déjà, en tant que consommateur, en tant que citoyen, l'homme d'âme, bah, ça perd de l'argent, ça perd de la valeur, pardon. Et toi, tu rajoutes encore les 2,5% de Zakat al-Mal qui viennent. Donc, tu as encore un peu plus. Et en plus, tu quelque part, tu n'es pas dans l'esprit islamique de comment tu dois gérer ton argent et que tu ne dois pas le thésauriser.
Donc, si on met un exemple concret pour que j'en puisse comprendre, si par exemple je mets de côté, on va mettre une petite somme, hein, disons 100 euros, 100 euros, j'ai 100 euros de côté que je laisse dans mon compte pendant un an. Et disons que l'année d'après, voilà, je regarde mon argent 100 euros. Au début de l'année, avec ces 100 euros, je pouvais acheter, disons, 100 baguettes. Et à la fin de l'année, je ne peux en acheter que, je sais pas, 90, 91.
Exactement.
Donc, j'ai perdu de l'argent. Exactement. Et même si à la fin de l'année, je rajoute 10 euros sur ce compte-là, en fait, je mets de l'argent, mais je peux acheter le même nombre de baguettes.
Mais tu viens de rajouter. Exactement. Ouais. C'est plus avec la, exactement. C'est l'érosion, ce qu'on appelle l'érosion. C'est que ton argent, en fait, petit à petit, il se déprécie, perd de sa valeur, et donc tu perds de l'argent quelque part de façon passive, en fait.
Pour être concret, même si on met une somme un peu plus conséquente, par exemple, en début d'année, cette année 2022, là, disons qu'on avait 100 000 euros de côté et qu'on a mis, on arrive à mettre 10 000 euros de côté pendant l'année, donc à la fin, on est à 110 000, et ben nos 110 000 valent 100 000. En fait, c'est comme si on n'avait rien mis de côté.
Exactement, c'est exactement ça. C'est que ça, chaque année, ça perd de la valeur. Alors, là, aujourd'hui, on est sur des montants assez importants, puisqu'on est dans un contexte économique et géopolitique compliqué. Mais de façon générale, l'objectif au niveau de l'Europe de l'inflation, c'est 2%. Donc, de base, quoi qu'il arrive, normalement, tu perds à peu près 2%. C'est l'objectif. Hein. L'inflation, l'objectif en Europe, c'est d'être aux alentours de 2%.
Donc 2% plus la Zakat.
Exactement.
Donc, on a 4-5% minimum.
Voilà, 4,5% minimum. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux juste conserver la valeur de ton argent et pouvoir payer la même chose chaque année, il faudrait que tu trouves des alternatives d'investissement, de placement, d'épargne qui te ramènent à peu près l'équivalent. C'est-à-dire 4, on va dire 2, parce qu'une fois investi, tu as des avis, mais l'avis majoritaire, c'est que si c'est investi, on reviendra peut-être dessus, ce n'est pas soumis à Zakat, mais en tout état de cause,
il faut au moins un produit.
Exactement. Il faut au moins que ça te rapporte à peu près 2%. Pour pouvoir juste conserver la valeur de ton argent. Quoi.
Donc, tu as évoqué l'importance de l'argent qui travaille, qui est mieux que l'argent qui dort, le fait que ça perde de la valeur à chaque année, donc c'est mieux d'investir. Est-ce qu'il y a d'autres points d'importance?
L'importance, c'est pareil, c'est tout à l'heure, c'est que ce que je disais, c'est que quand il y a des solutions, il faut souscrire, il faut adhérer parce que ça permet de développer d'autres solutions. Les gens aujourd'hui veulent beaucoup devenir propriétaires. Aujourd'hui, il y a uniquement deux banques en France qui proposent des produits conformes à l'éthique musulmane en termes de financement. Moi, aujourd'hui, j'ai plein de gens qui m'appellent parce que soit ils m'ont connu par le passé, soit ils m'ont vu sur LinkedIn ou autre, et ils me disent « Ouais, je veux lancer mon entreprise. Est-ce que vous proposez des financements pour conformes à l'éthique musulmane pour les entreprises ?» Ça n'existe pas encore, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas exister. Mais pareil, ces gens-là, j'essaie de leur expliquer qu'au final, il faut que tout le monde… Alors, pas tout le monde, mais en tout cas ceux qui ont les moyens, ceux qui ont envie d'épargner, ceux qui ont la situation et les disponibilités pour adhèrent aux solutions qui existent aujourd'hui pour que derrière, on puisse développer d'autres solutions. Parce que nous, les cahiers des charges, ils sont prêts. C'est-à-dire que nous, au niveau de Easy et de Perinis et du groupe ConnexCap de façon générale, on a dans les tuyaux plusieurs produits. Demain, si on a une banque qui souhaite vraiment développer ces solutions-là, on peut les développer sans problème. C'est-à-dire que tout est prêt. Et on travaille avec un comité de savants, donc la CERFI, avec Cheikh Mohamed Patel, Cheikh Zakaria Siddiqui, Cheikh Mohamed Bachir Oulsias, qui se chargent de vérifier nos produits, de vérifier le cahier des charges, avec qui on met à chaque fois les solutions qui sont validées avant de les mettre sur le marché et qui sont auditées par la suite. Je veux dire, tout est prêt. Mais par contre, il faut les partenaires. Et les partenaires, il faut leur montrer qu'il y a un marché. Avant, c'était que des études. Quand on a commencé en 2010-2012, c'était uniquement des sondages, des choses comme ça. Donc, on a eu la chance ou alhamdoulilah plutôt d'avoir une première banque qui a accepté de travailler avec nous. Et grâce à ça, on a prouvé qu'au départ, le Murabaha, ce n'était pas du tout accessible. C'était sur 10 ans avec 50% d'apport. Donc, pour pouvoir devenir propriétaire dans ces conditions-là, il fallait vraiment avoir des capacités financières assez conséquentes. Aujourd'hui, on peut financer son bien immobilier sur 25 ans avec 15% d'apport, donc c'est beaucoup plus accessible. Ça s'est fait en 10 ans. Et avec des produits d'épargne, avec des produits d'assurance, comme je t'ai dit, Sakina, avec d'autres solutions qui sont sur le marché. Mais il y a encore plein de choses à faire, notamment pour les entrepreneurs, pour les entreprises, pour les mutuelles, pour toutes ces choses-là. Il y a encore des choses qu'on peut mettre en place. Et pour ça, c'est important de montrer en fait que le client musulman lambda souhaite avoir des alternatives et que quand il y a des alternatives qui sont mises sur le marché, elles sont plébiscitées, elles rencontrent sur leur marché, et c'est que comme ça qu'on va réussir à convaincre d'autres partenaires. Moi, je vais te reprendre l'exemple de Périnis. Périnis qui aujourd'hui a déjà deux produits, enfin trois produits en un an. Moi, j'ai vécu l'histoire de Easy. Entre le premier financement immobilier Mourabaha et le deuxième partenaire qu'on a convaincu, ça a pris 5 ans. Et 5 ans, c'est pas 5 ans de passivité, c'est 5 ans de travail acharné de Anas, notamment puisque c'est lui qui s'occupe de toute la partie institutionnelle, de faire des rencontres, d'aller dans des salons, de construire des cahiers des charges, de rencontrer des gens, d'arriver parfois au dernier moment où tu as quelqu'un du marketing ou quelqu'un du service juridique qui te dit non, ça ne nous intéresse pas parce que le risque à prendre est beaucoup trop important par rapport aux retombées potentielles économiques qu'on peut avoir. Le premier produit d'épargne entre le deuxième partenaire et le premier produit d'épargne, la SCPI Faire Invest, qui permet d'investir dans l'immobilier à partir de 1 000 euros et de faire travailler son argent. Pareil, ça a pris 3 ans, donc entre 2015 et 2019, je crois, de mémoire. Et le premier contrat d'épargne vie Future Génération Life, accessible à partir de 5 000 euros, toujours chez Easy, ça a pris entre un an et 1 an et demi. Et là, aujourd'hui, avec Pérennis, donc, qui a été lancé en 2000, début, fin 2021, début 2022, on arrive donc à sortir trois produits en quelques mois. Donc, deux produits, donc le plan d'épargne retraite individuelle, une solution, comme je te le disais, assez révolutionnaire pour le client musulman lambda, puisqu'elle permet à la fois de préparer l'avenir, la retraite, mais surtout de défiscaliser, c'est-à-dire que les montants que tu vas placer chaque année, tu vas les déduire de ton revenu imposable. Donc, tu baisses ton impôt et tu prépares ton avenir. Donc, quand même quelque chose d'assez révolutionnaire, notamment bon, pour les personnes qui sont fortement imposées ou même pour les personnes qui veulent préparer leur retraite et bloquer leur argent jusqu'à la retraite. Hein. Retraite, gros sujet en France. Hein. On ne sait même pas si on va en avoir une. On n'arrête pas de changer l'âge de départ à la retraite. Donc, pareil, typiquement, je reviens sur ta question de tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il faut épargner? Ben, typiquement, il faut épargner aussi pour ça. Parce qu'au final, on ne sait pas de quoi demain est fait. Bien sûr, on ne sait pas si on va vivre jusqu'à demain, mais ce qui est bien dans ce type de solution, c'est que on met de l'argent. Si on est vivant, on le récupère. Si on n'est pas vivant, ben en fait, il va aux ayants droit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir à la fois structurer sa transmission dans le contrat, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire je veux qu'un tel touche tel pourcentage, en conformité avec l'éthique musulmane, sans devoir passer par un notaire, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et par ailleurs, en fait, ils vont toucher cet argent sans droit de succession jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. Donc, ça permet d'échapper à l'impôt
En plus des 100 000
au
euros.
décès habituel. Exactement. Exactement. 100 000 euros habituels pour les enfants. Donc, ça, c'est pour les enfants. Ils ont un abattement de 100 000 euros et donc on peut rajouter jusqu'à 150 000. Et donc, je te disais par rapport à Périnis. Donc, Périnis, toute nouvelle structure du groupe qui a été lancée l'année dernière avec comme vocation et comme volonté de démocratiser la finance éthique et faire en sorte à ce qu'elle soit commercialisée partout en France et surtout pas que à la clientèle musulmane. Donc, on se positionne vraiment sur des solutions de conviction avec un positionnement ESG. Donc, on va prendre en considération lorsqu'on va sélectionner des fonds sur lesquels on va investir. On va regarder l'impact social, environnemental, de gouvernance. Est-ce que les sociétés sur lesquelles on va investir ne polluent pas? Est-ce qu'il y a des politiques salariales qui respectent les droits des gens qui travaillent? Et plein de filtres comme ça qu'on va analyser. Et puis, on va rajouter un aspect, le sans dette. Le sans dette, c'est-à-dire qu'on va sélectionner uniquement des capitalisations alors qui ne sont pas dans le domaine déjà bancaire ou de la dette de façon générale, qui ne pratiquent pas riba, qui dans le fonds de commerce n'est pas la dette, et puis par ailleurs qui ne sont pas endettés au regard des ratios validés au niveau international par rapport à la conformité à l'éthique musulmane. Et donc, cet aspect-là aujourd'hui, et permet à la fois de viser la clientèle musulmane lambda qui souhaite épargner de façon éthique, mais il permet aussi de cibler, de proposer des alternatives à des personnes qui souhaitent diversifier leur portefeuille, s'exposer à des choses différentes dont ils ont l'habitude d'investir habituellement. Et puis par ailleurs, en fait, ce qu'on constate, il y a des études qui ont été faites pour montrer que les fonds conformes à l'éthique musulmane, donc qui vont exclure, qui vont prendre en considération ces notions d'endettement et qui vont exclure les sociétés trop endettées ou les sociétés qui travaillent dans l'environnement de la dette, ben quand on est dans une situation de crise comme 2008, et c'est pour ça que tout le monde a un peu vanté les mérites de la finance éthique à ce moment-là, ben en fait, ils sont beaucoup plus résilients. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont beaucoup mieux résister parce qu'au final, en fait, c'est un nettoyage qui se fait à ce moment-là. Tous ceux qui sont endettés se font racheter, disparaissent par ceux qui ont les fonds propres pour aller les racheter. Donc, quand on applique ces règles-là, on se rend compte que finalement, on résiste mieux. Aujourd'hui, les fonds qu'on a, pour te prendre un exemple assez frappant, depuis la création, quand on regarde nos rendements, on a différents profils en fait qui vont s'adapter en fonction de l'appétence au risque de la personne. Donc, est-ce que vous voulez plus de rendement avec beaucoup de risques, moins de rendement en sécurisant plus votre capital? Bah, aujourd'hui, on a des rendements, si on prend la date de création, donc qui est l'année dernière, à la date à laquelle on se parle, nos fonds, ils rapportent à peu près 11% de rendement.
D'accord.
Ce qui est
C'est assez
extraordinaire.
extraordinaire.
Hier, je parlais avec, voilà, je parlais avec un client qui a souscrit un produit chez nous et qui avait avant ne savait pas que Pérénice proposait des solutions comme ça. Donc, il nous a rejoint en cours de route. Il avait ouvert un contrat comme ça pour défiscaliser. Et ben, son contrat, il est dans le négatif. Pourtant, c'est des obligations qu'on lui a mis dedans, c'est-à-dire de l'intérêt de la dette. Normalement, c'est censé quand même performer, mais c'est dans le négatif. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour te dire qu'au final, et pourquoi est-ce qu'on arrive aujourd'hui avec Pérénice à avoir deux produits, et je te parlerai du troisième qui est en exclusivité là, je t'avais dit qu'on allait en parler en exclusivité chez toi, qui est dans l'annonce va se faire dans quelques jours. Pourquoi est-ce qu'on arrive aujourd'hui à convaincre plusieurs partenaires de travailler avec nous sur ces produits-là? Parce que quand on arrive aujourd'hui, on est capable de leur montrer que la Mourabaha, c'est plus de 3 000 personnes qui sont devenues propriétaires avec des millions d'euros de financement. La SCPI, c'est plusieurs millions d'euros de collectés sur quelques années avec une seule agence à Paris. Le contrat épargne-vie de Future Generation Life de Easy, bah, c'est là aussi en 1 an, quelques 5 millions d'euros collectés en très peu de temps avec une dizaine de conseillers. Donc, quand on leur montre ces chiffres-là, bah, là, ils te parlent plus de la même façon. C'est plus pareil, tu vois. Là, tout de suite, OK, quand tu leur fais une étude et que tu leur dis, regarde, ça, voilà, j'ai une équipe, j'ai les connaissances du marché, j'ai la base de données, j'ai le réseau et je sais que si on lance tel produit, il va y avoir tel succès sur tel nombre d'années, ben on va plus te regarder en disant, ouais, mais on n'y croit pas trop, est-ce que vous êtes sûr? Nous, les clients qu'on connaît, même quand ils ont un nom à consonance musulmane, ben, ils prennent quand même des crédits, ils prennent quand même du livret A, c'est pas trop sûr votre truc si ça va marcher, c'est plus pareil. Et donc ça, au final, ça permet justement de lancer des nouvelles solutions et surtout en fait que les solutions deviennent plus compétitives, moins chères et que ces principes de la finance conforme à l'éthique musulmane, encore une fois, inventés par même le pape, hein, on avait parlé à l'époque, que ça soit aujourd'hui une alternative, même pour les non-musulmans, qui peuvent aussi s'y retrouver dans certains aspects. Autant pour la Mourabaha, à part le fait de se dire, j'ai pas envie de tomber dans le riba, il n'y a pas vraiment un intérêt économique pour un non-musulman d'aller vers la Mourabaha, puisqu'au final, c'est plus compliqué, ça prend un peu plus de temps, même si ça reste relatif, hein, mais c'est un tout petit peu plus cher parce qu'il y a deux transactions, donc il y a un surcoût lié aux frais de notaire. Mais au final, quand tu fais le calcul, tu retombes à très peu de choses près par rapport à un crédit classique, peut-être à une centaine d'euros de différence par mois, ce qui peut te faire en fonction du projet 10 à 15 000 euros de plus, mais ça te permet d'être en conformité, de pouvoir dormir tranquille. Autant sur les produits d'épargne, il y a des valeurs, en fait, il y a un intérêt économique et des valeurs partagées avec tout ce qui est ESG, tout ce qui est finance durable et le sans dette. Aujourd'hui, il y a aussi des fonds, pas forcément à connotation éthique, qui se positionnent sur le sans dette uniquement sur l'aspect rentabilité, résilience. Donc, ce qui fait une convergence, en fait, où le produit peut être proposé à tout le monde.
Très bien, merci beaucoup pour cette explication. Hassan, on va revenir sur ces produits plus en détail. T'inquiète pas, j'oublie pas. Je vais poser des questions un peu plus pointues. Mais avant ça, j'avais une petite question par rapport à la Murabaha avant qu'on en finisse. Donc, l'emprunt pour pouvoir acheter un bien immobilier de manière conforme à l'éthique musulmane. Est-ce que la montée des intérêts actuels impacte le coût pour acheter un bien avec la Murabaha?
Alors, effectivement, de toute façon, en fait, on est comme je l'ai dit, hein, comme tu le sais, on est dans une économie de dette. Et aujourd'hui, la remontée des taux d'intérêt, ça impacte l'économie de façon générale. C'est pour ça que c'est l'instrument principal qu'utilisent les banques centrales pour réguler l'économie quelque part. J'ai besoin de relancer l'économie, je baisse les intérêts, j'ai besoin de diminuer ou de, voilà, j'ai une récession qui peut-être se prépare, il y a trop d'argent en circulation, j'augmente les taux et ainsi de suite. Donc, automatiquement, ces remontées des taux impactent tout ce qui est autour de nous. Ça impacte le prix de la baguette, ça impacte le prix des maisons, ça impacte le prix du crédit, ça impacte tout. Et donc, automatiquement, par ricochet, ça impactera aussi la Mourabaha. Automatiquement, si les taux directeurs des banques centrales augmentent, les taux d'intérêt des banques sur les crédits classiques vont augmenter. Et automatiquement, la banque qui, elle, va faire la Mourabaha regarde aussi ce qui se passe sur ces marchés-là et va aussi répliquer par rapport à son coût. Va répliquer la même chose sur la Mourabaha. Donc c'est lié, tout ça est lié, il y aura un impact quoi qu'il arrive.
Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une baisse du prix de l'immobilier due à cette montée des taux d'intérêt?
Alors, pas nous, mais de façon générale, les spécialistes, les économistes le prévoient. Je lisais dernièrement une étude qui disait, après elle vaut ce qu'elle vaut, hein, qui disait qu'en gros, une augmentation des taux d'intérêt de 1%, ça a une incidence sur les prix de l'immobilier de 7, de moins 7. C'est-à-dire que quand les taux d'intérêt montent de 1, ça fait baisser les prix de l'immobilier de moins 7 en moyenne. Bon, ça vaut ce que ça vaut, ça dépend de la région, ça dépend de l'endroit. Paris n'est pas pareil que la banlieue, la banlieue n'est pas pareil que la province. Mais voilà, en moyenne, sur le territoire national, apparemment, l'impact est celui-là. C'est des études qui ont été faites. Après, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. De toute façon, il n'y a personne qui peut rien prédire, hein. Les économistes, ils font tous des analyses. Après, on retiendra celui qui a dit une fois sur 10 que ce qui allait se passer. Mais au final, il n'y a personne. Les situations ne sont jamais, même s'il y a quand même des indices, des choses qu'on peut, voilà, on sait qu'on est dans une économie de dette, donc il y a des crises qu'on a vécues, il y a des cycles qu'on connaît, mais après les impacts peuvent être différents et on ne peut pas forcément anticiper. Les gens aujourd'hui, bah, il y a beaucoup qui avaient déjà prédit une baisse de l'immobilier après la crise du Covid. Moi, je n'ai pas vu de baisse. Tout le monde disait oui, je ne sais pas si tu as suivi un peu, mais en France, le Covid, il y a eu le confinement, tout le monde est sorti du confinement, tout le monde voulait acheter une maison. Donc, tout le monde, voilà, il n'y a jamais eu autant de crédits, de financement immobilier, d'achat de résidences
Les taux
principales, de
d'intérêt étaient toujours
déménagement,
aussi
de suite.
faibles, ils n'avaient pas augmenté aussi.
Exactement, les taux d'intérêt étaient toujours aussi faibles. Ça a continué. Et tout le monde disait, OK, bon, ça va juste être 2023, enfin, pardon, 2021, et ça va baisser, enfin, les transactions vont diminuer derrière. Il n'y a pas vraiment eu d'impact, ça continue. Aujourd'hui, je pense qu'il va quand même y avoir une baisse, Wallahu a'lam, mais je pense qu'il va y avoir une baisse. Maintenant, l'effet, il est généralement décalé, parce qu'en fait, là, il va y avoir des rejets, il va y avoir beaucoup de rejets, ça se matérialise déjà, des gens qui ne peuvent plus devenir propriétaires, parce qu'en fait, quand on augmente un taux d'intérêt de 0,5 ou de 1, bah, ça veut dire une augmentation des mensualités de 50 ou 200 euros. Et comme tu as des plafonds en France pour protéger le consommateur, il ne peut pas s'endetter à plus d'un tiers de son revenu, plus de 33%. Donc, automatiquement, si tu augmentes de 100 euros, tu es à 2000 euros de rendement, de revenu, pardon, bah, tu n'es plus éligible, tu ne peux plus acheter. Donc, ce qui fait que ton dossier est rejeté, donc le bien revient sur le marché. Et donc, soit le bien revient sur le marché, soit toi, tu vas revenir, en fait, tu vas aller voir ton propriétaire et tu vas lui dire, écoute, quand je t'ai fait mon offre, mon dossier est éligible, là, je ne suis plus éligible. Donc, à toi de voir. Soit tu baisses le prix de 5 ou 6 000 euros pour que je puisse toujours rester sur la même mensualité, soit je te ramène une lettre de refus et tu vas repartir sur le marché pour trouver quelqu'un et ça va te prendre 6-7 mois. Donc déjà ça contribue à la baisse des prix. Donc les gens généralement, ils ne sont pas bêtes, ils vont te dire OK, je baisse de 5 000 parce que de toute façon, celui qui va arriver derrière toi, il sera peut-être dans la même situation. Et en plus, d'ici là, les prix auront baissé. Donc, mais tu vois, l'effet, il n'est pas immédiat.
Ouais, ça prend quelques mois.
L'augmentation des taux, voilà, ça va prendre quelques mois. C'est dans quelques mois que ça va. Mais au final, pour le consommateur final, en réalité, ça sera la même chose parce que ce qu'il va gagner sur le prix du bien, il va le perdre sur les intérêts de l'autre côté. Donc au
Ça
final,
s'équilibre.
voilà, ça va s'équilibrer, quoi, au final.
Très bien.
Voilà.
Alors, Périnis 570 ici. Donc, je pense que c'est un peu flou pour les auditeurs. Comment ces deux entreprises sont liées, comment elles fonctionnent ensemble? Parce qu'au final, tu as quitté 570 ici, mais tu as rejoint Périnis. Mais c'est plus ou moins des structures
C'est
qui
ça.
travaillent ensemble. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus?
C'est ça, exactement. On a beaucoup parlé de 570 parce que c'est un peu l'histoire, mon histoire. Et Pérennis, c'est un peu récent. Alors, Pérennis, c'est une filiale du groupe. Alors, Easy, bon, tout le monde connaît, hein, j'en ai pas mal parlé au départ, là. Une société qui distribue des solutions d'épargne et de financement conforme à l'éthique musulmane. Des conseillers un peu partout en France, un réseau de distribution auquel j'ai activement contribué à mettre en place et qui continue aujourd'hui avec une nouvelle équipe qui est au top et que je salue au passage s'ils écoutent le podcast, qui ont des conseillers partout en France sur l'île
Big
de
up.
La Réunion, à la Bicap exactement, qui sont partout. Et donc voilà, de proximité avec aussi un service patrimonial. Une équipe patrimoniale dédiée qui s'occupe plus des hauts clients, notamment les footballeurs de confession musulmane, les médecins, et voilà, donc vraiment quelque chose qui s'adapte aux besoins de chacun en fonction de sa situation, de sa trajectoire et de ses besoins. Et voilà. Et après, bah, Pérennis, c'est une nouvelle filiale qui a été créée l'année dernière, qui fait partie du même groupe, dont le groupe est actionnaire avec une autre société qui ont Cristalis, en fait, Cristalis, qui est une sorte de robot advisor. Qui analyse en fait les marchés, c'est une sorte d'outil qui va analyser les marchés financiers, qui va les screener, qui va aller chercher tout ce qui est ESG, tout ce qui est notation financière, en fait en fonction des critères que tu vas donner, il va aller te sortir les fonds qu'il te faut. Donc, c'est deux anciens de chez Amundi, deux anciennes personnes de chez Amundi qui travaillent dans cette société de gestion, qui l'ont quitté et qui ont décidé de lancer leur propre structure, avec qui on avait travaillé par le passé sur le premier contrat d'assurance vie Future Generation Life avec Easy, et avec qui, donc, Anas Patel, qui est le président de 570 Easy, a décidé de lancer une nouvelle société qui s'appelle Perinis et qui a pour vocation de structurer des nouveaux produits d'épargne ESG, donc responsable, éthique et responsable, donc impact social, gouvernemental, de gouvernance, pardon, et environnementale, et en rajoutant cet aspect du sans dette. Donc l'objectif, c'est de gérer cette épargne-là, de vraiment aller trouver les meilleurs fonds qui respectent ce cahier des charges, qui sont à la fois verts, performants, éthiques et à impact, et de les proposer dans des portefeuilles, dans des enveloppes pour le client, le consommateur lambda. Donc on a commencé par le plan d'épargne retraite individuelle, parce qu'en fait, en 2019, il y a eu une loi qui s'appelle la loi Pacte, qui a pour objectif, pour résumer, hein, c'est une loi assez vaste avec beaucoup de choses. En France, quand on lance des lois, généralement, il y a même parfois des choses qui n'ont rien à faire là-dedans, qu'on va glisser pour les faire valider discrètement. Mais là, pour le coup, en l'occurrence, c'est une loi assez vaste, qui a pour objectif, en fait, de faire en sorte à ce que l'épargne des citoyens contribue au financement des entreprises, que l'épargne serve directement les entreprises françaises de façon. Enfin, de façon ciblée, mais il y a pas de si loin. Il y a aussi l'équivalent en Europe qui est en train de se mettre en place. Et ça a surtout, comment dire, un peu libéralisé la gestion de l'épargne retraite et de l'épargne salariale. Donc avant, c'était quelque chose d'assez fermé. Pour faire simple, on pouvait pas faire de finances conformes à l'éthique musulmane dans l'épargne salariale ou dans l'épargne entreprise avant cette loi. Ou de l'épargne retraite parce que c'était très compliqué, il fallait qu'il y ait des intérêts, sinon il y avait toujours des sorties en rente. Donc la rente, c'est à la fin, tu mets de l'argent et à la fin, tu récupères chaque mois et tu peux récupérer plus que ce que tu as mis ou moins si tu meurs plus vite ou plus tôt. Donc un gros problème d'un point de vue conformité éthique parce que c'est une sorte de pari, de jeu de hasard, ce qui n'est pas conforme et qui fait partie des interdits en termes de finances conformes à l'éthique musulmane. Donc cette loi, elle est venue un peu libéraliser ce marché-là de la finance, de l'épargne plutôt, et donner beaucoup plus de possibilités. Et donc notamment avec le plan d'épargne retraite individuelle, qui permet, comme je le disais tout à l'heure, de préparer la retraite et de défiscaliser. En fait, en gros, peut-être les gens qui nous écoutent ont déjà entendu parler du plan d'épargne retraite populaire, le PERP, et le Madelin, qui était un peu pour les salariés, le PERP pour les individus, et le Madelin plus pour les professions libérales. Ces deux produits n'existent plus. Ils ont été arrêtés à la commercialisation en 2020 et ils ont été remplacés par le plan d'épargne retraite individuelle que tout le monde peut ouvrir et qui donne principalement les mêmes avantages avec plus de flexibilité, notamment à la sortie, puisque aujourd'hui on a le choix de sortir en capital, donc récupérer son argent plus les gains que notre contrat a réalisés, ou en rente, donc récupérer potentiellement plus ou moins avec une rente à fin de vie. Donc nous, cette partie-là, on ne la prend pas dans nos contrats. Chez nous, la sortie se fait qu'en capital, soit fractionné, soit total, soit partiel. Et puis derrière, on a mis en place notre gestion. Donc Périnis s'occupe de la gestion de l'épargne en allant justement sélectionner les fonds. L'objectif de Périnis, c'est de mettre en place ces produits-là et de les proposer à la distribution auprès des courtiers, des conseillers en gestion de patrimoine, des mandataires. Et donc, Easy, 570 Easy, a été notre premier partenaire avec qui on a signé une convention de distribution et donc qui a proposé en exclusivité le plan d'épargne retraite individuelle l'année dernière à ses clients. Donc, pour te faire simple, on a collecté 1 million d'euros en 2 mois sur 800 clients de chez Easy qui ont souscrit tout de suite à la solution parce que c'est des gens qui nous font confiance. C'est moi qui me suis occupé de la collecte puisque j'étais encore directeur commercial à l'époque de chez Easy. J'étais un peu en transition. Donc voilà, tout seul, j'ai collecté ça pour te montrer un peu l'appétence aujourd'hui qu'il y a pour ce type de produit. Quand on est dans une relation de confiance avec les clients qui nous connaissent maintenant depuis des années, qui savent que quand on lance une solution, c'est avant tout dans leur intérêt.
Donc, pour faire simple, 570 Easy, on peut aller les voir pour investir notre argent,
Exactement.
mais les produits qui sont proposés ne sont pas les leurs. C'est Pérennis qui les construit et
Alors,
qui les revend.
si, ils ont des produits qui leur appartiennent, comme la
D'accord.
SCPI Faire Invest, en tout cas qui leur appartiennent, qui distribuent, qu'ils ont eux-mêmes mis en place, hein, qu'on a mis en place à l'époque.
D'accord.
La SCPI Faire Invest, le contrat Future Generation Life, le contrat d'épargne vie de droit luxembourgeois, Donc ça, c'est des contrats que Easy a en distribution. Et à côté, ils ont le plan d'épargne retraite individuelle de Pérennis et le contrat d'épargne vie de Pérennis qui est accessible à partir de 500 euros, notamment pour les enfants. Donc en fait, c'est quand on va voir un conseiller de chez Easy, il va vous poser une batterie de questions. Combien vous gagnez, quelle est votre situation familiale, patrimoniale, quels sont vos objectifs, quel est votre âge. Donc, bref, c'est une étude, ce qu'on appelle une étude patrimoniale. Et à la fin, en fait, il va vous faire des préconisations. C'est-à-dire qu'en fonction de votre profil, ce que vous avez comme disponible, peut-être qu'il va vous dire, bah, tenez, vous, le Perrin, ça peut être intéressant pour vous, ou l'épargne-vie de Pérennis peut être intéressante pour vous. Tout comme il peut vous dire, non, non, ce n'est pas du tout intéressant, vaut mieux aller sur de la SCPI ou sur le contrat Future Generation Life, des droits luxembourgeois. Ou bien il va vous dire, il faut mettre un peu partout. Donc au final, les produits de Pérennis font partie des produits que Easy peut proposer à ses clients si le profil et si c'est adapté au client qui est face à eux. Et donc l'idée, c'est que ça soit fait par tous les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pérennis, on a à peu près une trentaine de distributeurs partout en France. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans le domaine du courtage ou de l'assurance ou de la gestion de patrimoine, ils peuvent nous contacter et on peut travailler ensemble. Et donc, pareil, ils pourront avoir dans leur portefeuille des produits Pérennis qu'ils pourront proposer à leurs clients qui souhaitent soit diversifier leur exposition sur des produits intéressants, notamment sur l'aspect dette, ou bien s'ils ont une clientèle qui a une appétence pour les produits conformes à l'éthique musulmane, ou même s'ils n'ont pas et qu'ils se disent, bah, tiens, sur mon territoire aujourd'hui, je sais qu'il y a un marché et je sais que je peux me différencier par rapport à mes concurrents en allant proposer ce type de produit-là.
Donc, si on se concentre plutôt sur Pérennis, tu disais plutôt que vous avez trois produits dont le troisième va sortir bientôt, très, très prochainement, Inch'Allah.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous les décrire un par un, nous dire quel est l'investissement minimum, le retour sur investissement, le niveau de risque, les avantages fiscaux, etc. de chaque produit?
Bien sûr. Bien sûr. Alors effectivement, donc le premier produit, la première solution sur laquelle on a vraiment travaillé, c'est le PERA, hein, on en a parlé là depuis tout à l'heure. Donc le plan d'épargne retraite individuelle qui permet encore une fois de préparer la retraite ou l'achat d'une résidence principale, puisque l'argent est débloquable aussi pour l'achat d'une résidence principale ou en cas de coup dur. Hein, les cas de coup dur, c'est le décès du conjoint, l'invalidité ou des choses comme ça. Cet argent-là, il permet vraiment de payer moins d'impôts en préparant l'avenir, c'est-à-dire que chaque fois que vous mettez un montant, vous le déduisez de votre revenu imposable. Il est accessible à partir de 1 000 euros, donc à l'ouverture, c'est 1 000 euros minimum, et on peut mettre en place des versements programmés à partir de 100 euros par mois. Ce n'est pas obligatoire, c'est généralement conseillé, hein, je pense que tu le sais, on conseille généralement quand on investit, d'investir petit à petit, donc de lisser son investissement, bah, justement pour minimiser le risque et pour profiter des évolutions du marché. Donc voilà, ce n'est pas obligatoire, mais nous, on le recommande généralement à nos clients de mettre en place un petit versement, parce qu'en plus de ça les oblige aussi quelque part à se discipliner à une gestion financière saine, à mettre de côté chaque mois pour préparer l'avenir ou pour faire face à des difficultés. La deuxième solution,
Le
c'est
premier,
l'épargne vie
juste
de.
sur le premier, la première
Oui.
solution, quels sont les retours attendus, les retours moyens?
Alors, les rendements, on vise un rendement entre 4 et 8 %. Ça, c'est ce qu'on vise. Il y a trois profils de
Sur quel
risque.
type d'investissement? Vous investissez sur quoi, techniquement, vous, derrière?
Alors, on va avoir des fonds actions et des fonds soukouk, ce qu'on appelle soukouk, donc infrastructure pour résumer, hein, pour pas trop rentrer dans des détails. Il y avait déjà Azdine qui l'avait résumé la dernière fois. Les auditeurs pourront réécouter le podcast pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté. Mais en gros, les entreprises, l'immobilier, l'infrastructure et les matières premières. Ça, c'est l'univers d'investissement du départ. 100% unité de compte, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des fonds obligataires. C'est ce que je disais tout à l'heure, on va exclure tout ce qui est lié à des instruments qui génèrent de la dette ou qui évoluent dans le monde de la dette. Donc, on va avoir que des actions, que des unités de compte.
Et de votre côté, vous allez créer ce qu'on appelle votre portfolio, donc peut-être
Oui,
20%
exactement.
d'immobilier, 30% d'actions, enfin vous
Exactement.
choisissez vous directement et
Exactement.
vous créez un produit à partir de ça.
Exactement. Nous, en fait, on a mis en place un robot advisor qui va screener les marchés, qui va analyser les marchés, les tendances, et qui va prendre en considération à la fois cet aspect éthique, cet aspect vert, puisqu'on va regarder on va prendre en compte un certain nombre de critères pour être ESG, donc tout ce qui est investissement socialement responsable. Et on va screener le marché pour aller sélectionner les fonds qui à la fois respectent ça et qui sont performants. Et donc, et en fonction de ça, nous, on va réaliser notre allocation qui est dynamique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est
Elle
pas, comment
change.
dire, voilà, elle change. C'est-à-dire que nous, on va juste s'engager sur une allocation. On va dire, par exemple, par rapport à votre profil, on va avoir 30% d'actions, 40% de soukouk, et le reste, ça sera des matières premières, par exemple. Mais peu
À
importe ce
chaque
qu'on va
profil a
mettre
une
dedans.
allocation différente.
Exactement, il y a trois profils. Voilà, il y a trois profils. Le profil prudent, le profil équilibre et le profil dynamique. Donc, comme son nom l'indique, le prudent, c'est quelqu'un qui ne veut pas trop prendre de risques. Donc, on va avoir beaucoup plus de soukouk, beaucoup de matières premières et très peu d'actions. Le profil équilibre, c'est quelqu'un qui veut prendre un peu de risques pour avoir des belles performances, mais tout en sécurisant un peu son capital. Et puis, le profil dynamique, c'est quelqu'un qui, lui, vous dit, moi, je veux de la rentabilité à fond et je suis prêt à prendre du risque. Donc là, typiquement, par rapport à la question que tu me posais tout à l'heure, si tu arrives chez Easy et que tu as 5 000 euros de côté… Bon, ils vont pas te proposer d'aller sur le profil dynamique et voire même ils vont te proposer de mettre 500 euros dans un premier temps, juste le temps de faire travailler ton argent puisqu'il faut avoir une épargne de précaution. Voilà. Donc, il y a toute une étude qui doit être faite pour conseiller au mieux le client. L'objectif, c'est surtout que le client, il trouve un intérêt et que ça soit adapté à sa stratégie, à sa situation. Donc, c'est vraiment cette analyse qui se fait en amont.
Oui, et sur ce type de
Voilà.
produit, il n'y a pas spécialement d'avantages fiscaux ou autres, c'est l'investissement pur.
Sur le terrain, si. Le PERA, en fait,
Ah,
il te permet à la fois
d'accord.
de déduire et en plus, ça travaille pour toi. Donc, c'est ça l'intérêt du PERA. C'est que ça te déduit des
D'accord.
impôts et en même temps, ça s'est investi, ça te
Tu
ramène
peux
en
donner un
total pour.
exemple, par exemple, de déduction, un exemple concret?
Ah bah, en fait, il faut regarder ta tranche marginale d'imposition. Si par exemple, tu es sur la tranche la plus haute à 30%, donc les tranches est 30, après tu passes à 41 et à 45. Bah, si tu es sur une tranche marginale à 30, pour résumer, hein, pour schématiser, après, bien sûr, il faut s'entretenir avec un conseiller, mais en gros, si tu mets 1 000, ça te fait 300 euros d'économie d'impôt. Si tu mets 10 000, ça te fait 3 000 euros d'économie d'impôt. Donc, tu peux pratiquement complètement éliminer ton impôt. Et en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les 3 000, de toute façon, tu les aurais payés. Donc, si tu mets 10 000, c'est comme si au final, tu n'as mis que 7 000, parce que les 3 000, eux, c'est soit tu les mets pour toi et tu les fais travailler, soit tu les donnes en impôt. Donc, en
D'accord.
gros, c'est à chaque fois le pourcentage de ta tranche marginale d'imposition. Si tu es sur une tranche à 40, bah, si tu mets 1 000, tu as 400 euros d'économie d'impôt. Si tu mets 10 000, tu as 4 000 euros d'économie d'impôt et ainsi de suite. Donc, c'est toujours en fonction de ta tranche marginale. Ce qui est quand même assez conséquent, hein, parce que je ne sais pas si tu… Bon, nous, on fait beaucoup de dons déjà pour faire les dons et puis on déduit fiscalement. Mais tu vois, par exemple, les dons, ils ne sont pas déductibles en totalité. On va déduire que 66% de mémoire. Alors que là, en fait, tu déduis le montant global et ça te fait une économie d'impôt par rapport au montant. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire les dons. Hein. Il faut continuer à faire les dons, mais en plus, on peut défiscaliser. On peut aussi défiscaliser avec de l'épargne.
Avec un maximum de défiscalisation de combien?
Ah, y a pas de. En fait, ça va dépendre de ton revenu. Chaque année, sur ton avis d'imposition, on te met le montant que tu peux déduire. En fait, en résumé, c'est 10% de ton revenu annuel que tu as le droit chaque année. Et si tu n'as
D'accord.
jamais rien fait, tu peux cumuler les 3 dernières années. Ah, je vais te prendre un exemple simple. L'année dernière, j'ai eu un médecin. L'année dernière, il a fait une année Covid chargée. Il n'a jamais autant travaillé. Il a fait 300 000 euros de revenus. Il était sur une tranche à 45. On a mis 120 000 euros. Ça lui a permis d'économiser 50 000 euros d'impôts. Donc, voilà, c'est des montants. Ça peut aller très vite pour les personnes qui sont
Surtout pour les gros
fortement.
salaires. Plus on gagne, plus c'est
Voilà.
intéressant, quoi.
Voilà, plus vous gagnez, plus c'est intéressant, effectivement. Et si vous gagnez moins, bah, il y a d'autres solutions qui vous permettent juste d'épargner sans forcément le côté fiscal. Après, bon, il faut garder en tête que c'est bloqué jusqu'à la retraite ou bien pour l'achat d'une résidence principale. Donc voilà, il y a des
D'accord.
avantages, il y a aussi des inconvénients. Donc c'est le conseiller vraiment qui va faire l'analyse. Il ne faut pas non plus tout mettre. Il faut jamais choisir un produit uniquement pour l'aspect fiscal. Ça, c'est la règle de base qu'on nous apprend quand on fait de la gestion de patrimoine. L'aspect fiscal doit être un plus. Ça ne doit pas être l'objectif de départ. L'objectif de départ, ça peut être la transmission, faire fructifier son épargne, protéger son capital, plein d'autres aspects. Et en plus, on fait de l'optimisation. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui est le mieux pour atteindre ces objectifs-là de base. Et derrière, on va rajouter cet aspect fiscal pour à la fois payer moins d'impôts, parce que c'est un avantage que l'État donne. Si elle le donne, c'est que elle sait que ça va intéresser les gens. Mais aussi à la sortie, comment est-ce qu'on va mieux optimiser tout ça. Et donc ça, c'est toute une étude qui se fait avec les conseillers qui proposent en fonction des objectifs de la personne, de sa situation, le produit, la solution qui est la plus adaptée.
Alors ça, c'était le premier produit. Tu me rappelles le nom du premier produit déjà?
Alors c'est le PERA, le plan d'épargne
Le
retraite
Perrin, le
individuelle.
Perrin, d'accord. Donc il y a encore deux produits.
Alors il y a deux produits, effectivement, donc il y a l'épargne vie, qui est en fait un contrat d'épargne qui bénéficie du cadre fiscal avantageux de l'assurance vie. Donc, ça vous permet de transmettre sans imposition et puis surtout d'avoir des abattements fiscaux sur les gains. C'est-à-dire qu'au bout de 8 ans de détention, vous avez des abattements de 9 200 euros pour un couple et 4 600 pour un célibataire sur lequel vous ne payez pas d'impôt sur les gains générés, hein, pas sur le capital placé. Donc, ça, c'est accessible à partir de 500 euros. Donc, on peut l'ouvrir à partir de 500 euros et on peut mettre en place des versements programmés à partir de 50 euros par mois. Typiquement, ça, c'est aujourd'hui le produit d'épargne le plus accessible conforme à l'éthique musulmane en France, investi sur les marchés financiers. Et donc, typiquement, voilà, les enfants, au lieu de leur ouvrir des livrets A ou des choses comme ça, ça peut être une très belle alternative pour leur mettre de l'argent de côté, pour leurs études, pour leur avenir et pour les grands aussi. Mais voilà, on commence vraiment bas, 500 euros en ouverture et 50 euros par mois. En termes de gestion financière et de rendement, c'est la même chose. On va avoir à peu près la même stratégie, c'est-à-dire que le fonds est le même et enfin les fonds sont les mêmes et on va avoir les allocations vont être différentes parce que l'horizon de placement est plus faible, mais en gros on va viser aussi un rendement entre 4 et 8% en fonction du profil investisseur.
Très bien. Et donc ça, pourquoi est-ce qu'on investirait dans ceci? Dans ce que j'ai compris dans pour style d'investissement, c'est plutôt pour peut-être ses enfants. Un investissement pour ses enfants, pas
ses
pour
enfants,
nous,
soi-même. Pour soi-même. En fait, l'argent, oui. C'est si, pour soi-même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu as de l'argent qui dort sur un compte bancaire, ça ne sert à strictement à rien. Si tu n'en as pas besoin dans les 2-3 ans à venir, que tu vas en avoir dans 5 ans, dans 8 ans, il faut l'investir, ça ne sert à rien de le laisser là.
D'accord, donc l'avantage par rapport au premier investissement, là, on peut retirer l'argent plus facilement. On n'a pas besoin d'avoir de la retraite.
Exactement. Exactement. Ça ne donne pas d'avantage fiscal à l'entrée. Il y a un avantage fiscal plutôt sur les gains générés puisqu'il y a des abattements au bout de 8 ans de détention. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que demain, tu as un pépin, tu peux retirer ton argent à tout moment. Tu avais prévu d'investir sur 10 ans, tu en as besoin dans 5, tu peux le récupérer dans 5 ans.
Et l'abattement au bout de 8 ans, il est chaque année ou il est juste une fois au bout de 8 ans?
Chaque année, oui. C'est un abattement annuel.
D'accord. Donc, il faudra ouvrir en fait le compte le plus tôt possible pour que ce soit…
Exactement, exactement, exactement. Je vois que tu connais très très bien, mais tu fais semblant de ne pas connaître. On dit qu'il faut prendre date généralement. On dit qu'il faut prendre date sur ce type de produit. C'est d'autant plus vrai pour nous. Alors déjà, pourquoi? Parce que quand tu ouvres un contrat d'épargne vie ou d'assurance vie, si tu veux, pour les produits classiques, en fait, on va prendre en considération la date d'ouverture. C'est-à-dire tu peux ouvrir, par exemple, là, aujourd'hui, un plan d'épargne vie en septembre 2022. Si tu mets rien dans ce contrat-là, si ce n'est les 500 euros d'ouverture, et que tu attends le 20 septembre 2030 pour rajouter 50 000 euros, 60 000 euros, en fait, tu bénéficieras de l'abattement. Parce qu'on va prendre en considération non pas la date du versement, mais la date d'ouverture du contrat. On va prendre l'entièreté fiscale de la date d'ouverture du contrat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour nous, en tant que consommateurs musulmans, en fait, c'est super important d'ouvrir dès maintenant, parce qu'on n'est pas sûr, les choses peuvent évoluer dans le futur, on ne sait pas si ces contrats-là vont pas être réformés ou des choses comme ça. Et en fait, quand tu as un contrat, tu bénéficies toujours de l'entièreté fiscale la plupart du temps. Par exemple, je te prends l'exemple du Madelin, le Madelin et le Perp. Les Madelins et le Perp ne sont plus commercialisés, mais les gens qui les avaient ouverts avant, ils les gardent avec leurs avantages. Ils ont le choix de les transférer ou pas. Donc pareil, si le Perrin évolue sur une fiscalité différente à l'avenir, si la fiscalité est plus avantageuse, on pourra basculer sur son nouveau mode, et si elle est moins avantageuse, on peut toujours rester. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, et je te reprends l'histoire de l'assurance vie. L'assurance vie, quand ça a été mis en place en France, les avantages étaient beaucoup plus intéressants que ceux qu'on a aujourd'hui. Ceux qui ont ouvert des assurances vie, c'était pas halal, il fallait pas les ouvrir, mais ceux qui ont ouvert des assurances vie dans les années 90, les avantages qu'ils ont en termes de fiscalité, ça n'a rien à voir avec les nôtres. Plus on a avancé dans le temps, plus ça s'est compliqué. Et là, en ce moment, on parle de la fin de l'abondance. Donc, vaut mieux prendre date assez rapidement sur ce type de contrat pour pouvoir profiter des avantages fiscaux lorsqu'on en aura besoin. Peut-être qu'on n'en a pas forcément besoin tout de suite, mais on peut en avoir besoin à l'avenir, et je le souhaite à tout le monde. Pour ceux qui ne sont pas encore fortement imposés, qui soient fortement imposés à l'avenir, Inch'Allah, toujours dans le halal.
Très bien. Et donc là, on entre dans le troisième produit, celui qu'on attend tous, en exclusivité.
Voilà, le troisième nouveau produit, exactement. Moi, je conçois ça comme une révolution quelque part, par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. On a réussi, alhamdoulilah, à mettre en place un plan d'épargne retraite collectif et un plan d'épargne entreprise. Donc, ce qui veut dire que demain, vous allez pouvoir, en tant que salarié, proposer à votre employeur de mettre en place un plan d'épargne retraite collectif et un plan d'épargne entreprise qui peut correspondre à votre éthique, à vos convictions. Le partenariat vient d'être signé. L'annonce officielle se fera la semaine prochaine au Salon Patrimonia, qui est un peu le rendez-vous annuel des conseillers en gestion de patrimoine, qui a lieu à Lyon. Donc, on y sera avec l'équipe. On a fait le déplacement spécialement de l'île de la Réunion pour être sur place, pour annoncer de façon officielle le lancement de cette nouvelle solution. Donc, c'est une révolution. Pourquoi? Parce qu'elle permet déjà aux chefs d'entreprise qui souhaitent mettre en place ce type de contrat, qui bénéficient quand même d'un cadre pareil social, plutôt là, on va plutôt parler du côté social, assez avantageux. Je te prends un exemple très simple. Tu es chef d'entreprise, tu souhaites verser une prime à un de tes salariés. Si tu lui verses son salaire, si tu payes 1 000, il va toucher 500. Tu es chef d'entreprise, tu souhaites toujours verser une prime à ton salarié. Tu passes par un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne retraite collectif. Tu lui verses 1 000, il va toucher 900. Donc, tu vois, l'économie, elle est quand même assez conséquente.
Oui.
Tu passes de 900 à 1 000.
Ça.
Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, tu peux aussi en bénéficier toi-même de ces avantages-là. Donc, ça te permet aussi de pouvoir bénéficier d'un cadre fiscal avantageux, de sortir du cash de ton entreprise en passant par ces mécanismes-là. Typiquement, voilà, dans la pratique, il y a beaucoup de médecins qui montrent des sociétés avec leurs épouses, avec leurs collègues, parce qu'il faut avoir un salarié minimum pour pouvoir mettre en place ça. Et ça leur permet là aussi d'optimiser. Là, on optimise plutôt la fiscalité sur le revenu. C'est plus la fiscalité personnelle, mais plus la fiscalité de l'entreprise. Ça permet de sortir une rémunération avec un forfait social assez intéressant. Là aussi, le régulateur a mis en place ces choses-là pour inciter les personnes à épargner, puisque cette épargne est utilisée, comme je le disais tout à l'heure, elle est investie dans l'économie réelle, elle permet de créer de l'emploi, de créer des choses. Donc, la contrepartie de l'avantage social, enfin, sur le forfait social qu'on va avoir, derrière, on estime que ça va impacter l'économie. Et donc, ça, c'est une révolution. Je pense que, pareil, hein, comme le plan d'épargne retraite individuelle, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire aujourd'hui. Et ce qu'on a réussi à faire avec ce partenaire-là, c'est que l'entreprise qui met en place ce contrat, les clients qui recherchent, enfin plutôt ces salariés qui recherchent des solutions d'épargne de conviction, que ce soit sur l'aspect performance éthique, gestion pilotée qu'on fait pour eux, ou bien qui recherchent l'aspect conformité à l'éthique musulmane, peuvent prendre la partie Pérennis. Mm-hmm. Et ceux qui ne sont pas animés par ces critères-là, par plutôt ces convictions-là, ils peuvent prendre la partie qui est classique, en fait, on va retrouver des obligations. Et en fait, nous, Pérennis, on ne s'occupera pas de cette partie-là, c'est-à-dire que le partenaire, qui lui est une institution lambda, gérera cette partie non éthique. Nous, on n'y touche pas, on n'intervient pas dessus. Et en gros, l'offre, elle permet de toucher tout le monde. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise aujourd'hui qui a plusieurs salariés qui souhaitent mettre en place un produit, il pourra pas dire non, je prends pas l'offre de Pérennis parce que il y a pas d'obligation, parce que ça touche ça s'adresse à un type de salarié particulier. Mmh. Là, il a en fait le choix. Nous, on vient juste proposer une offre dans l'offre qui est accessible à ceux qui souhaitent aller vers ça, ou bien diversifier, ou bien qui veulent du rendement, une gestion pilotée. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'elle est assez extraordinaire, parce qu'elle va permettre à la fois de répondre aux chefs d'entreprise de confession musulmane qui souhaitent mettre ça en place pour leurs salariés. L'objectif de ce type de mécanisme, au-delà de l'aspect forfait social avantageux, c'est aussi de fidéliser les salariés, de les intéresser. Voilà, quand vous avez des conditions, on sait que les gens regardent ce type de choses. Quand vous avez une entreprise et que vous avez un plan d'épargne retraite collectif, un plan d'épargne entreprise, que vous distribuez l'intéressement, la participation, qui a, comment dire, un cadre général pour le salarié, le salarié est plus fidèle, il est plus impliqué, il contribue davantage à la réussite de l'entreprise, parce que derrière, quand ça se passe bien, lui aussi, ça se passe bien pour lui. Donc, c'est à la fois un outil de fidélisation, un outil de conquête de salariés compétents, et puis c'est aussi un outil qui permet de mieux rémunérer, d'économiser en termes de charges,
oui,
et de s'auto-rémunérer aussi en tant que chef d'entreprise.
Donc, ces plans d'épargne entreprise, ils sont utilisés comment techniquement par les chefs d'entreprise? C'est pour attribuer des bonus annuels ou n'importe quand? Comment c'est utilisé techniquement? Donc, ils ont leur salaire qui reste
exactement
le même. Exactement. Mais à côté, du coup, ils ont le choix. Ils ont le choix de pouvoir ajouter ça.
Exactement. En fait, au final, c'est des conventions qui se mettent en place, des conventions qu'on signe. Dedans, on va déterminer les conditions les conditions qui vont permettre à ce que tel ou tel salarié touche cette prime ou ce bonus. Et au final, quand l'entreprise va réaliser ses objectifs ou faire ses chiffres, ça va déclencher ce montant-là. Et après, c'est au prorata, hein, c'est en fonction du cadre, en fonction du poste, de l'ancienneté. Donc, il y a plein de choses qu'on peut prendre en considération et qui permettent de déterminer combien va toucher chaque personne par rapport à son implication. Et donc, il y a ça. Il y a aussi l'abondement, c'est-à-dire que l'entreprise peut mettre en place un abondement. L'abondement, ça consiste à dire que si toi, de façon volontaire, tu décides de verser une partie de ton salaire sur le plan d'épargne entreprise, bah, la société peut te dire, OK, si tu mets 100, bah, moi, je te rajoute 50. Et donc, ça aussi, bon, moi, j'ai vu bon, malheureusement, c'était à l'époque, c'était pas forcément conforme, mais bon, les gens n'étaient pas forcément conscients. Donc, c'était aussi l'occasion de, quand ils venaient pour un financement immobilier, de leur dire que ce type de contrats ne sont pas forcément conformes, mais moi j'ai eu des personnes qui ont constitué leur rapport pour l'achat de leur résidence principale via la Mourabaha, principalement grâce à leur plan d'épargne entreprise et à l'abondement de leur employeur. Il y a aussi tout ce qu'on appelle le compte épargne-temps. On sait aujourd'hui, voilà, sur les heures sup, ce que tu peux faire en plus et autres. Il y a des mécanismes qui permettent de transférer quand tu n'as pas pris ces RTT, quand tu n'as pas pris ces journées
Ah oui.
en repos, ben, il y a des mécanismes qui vont te permettre de transformer ce temps en argent et de le verser sur ton plan d'épargne entreprise. Bon,
D'accord.
pour te faire simple, le plan d'épargne retraite individuelle qu'on a, il permet aussi de récupérer les plans d'épargne retraite collectif que les clients ont auprès de leur employeur. Et aujourd'hui, une bonne partie de notre collecte sur cette année, en tout cas, provient de ça. C'est-à-dire qu'on récupère des 40, des 50 000 euros que les gens ils ont eu, surtout quand ils sont dans des grands groupes, grâce à cette épargne-là. Et là, aujourd'hui, eux, pourquoi ils ferment? Parce qu'en fait, ils veulent aller vers des choses éthiques. Donc, ils ferment leur plan d'épargne entreprise, retraite collective, pardon, pour venir chez nous dans le Perrin, puisqu'on peut les récupérer, parce que ben, ce n'est pas conforme à leur valeur. Ils veulent des solutions de conviction. Et donc,
Oui.
aujourd'hui, demain plus tôt, ben, l'employeur, il ne va plus voir l'érosion de ce capital-là, de ce placement-là, puisqu'il va pouvoir proposer directement à ses salariés une alternative pour pouvoir justement épargner avec conviction.
Et les investissements, c'est plus ou moins les mêmes que ceux qu'on évoquait plus tôt, donc en entreprise, dans les actions, dans
Ouais,
ce genre
c'est
d'outils.
plus ou moins les mêmes. Franchement, je vais pas te mentir, on a un partenaire qui est vraiment extraordinaire. On va avoir accès à beaucoup plus d'instruments, puisque c'est un partenaire de luxembourgeois qui est installé au Luxembourg. Bien sûr, de droit français, tout est bien structuré. Mais en réalité, via le Luxembourg, on va avoir accès à beaucoup plus de fonds. Donc, ce qui fait que la gestion, elle sera encore. Alors, déjà, la gestion du Perrin est très bien. Mais là, la gestion qu'on va avoir sur le plan d'épargne retraite collectif et le plan d'épargne entreprise va encore être meilleure, Inch'Allah, parce qu'on va avoir accès à beaucoup plus de fonds, notamment à des fonds internationaux. En fait, c'est vraiment une solution clé en main avec une application, c'est-à-dire que le salarié, il aura une application Pérennis sur son portable. Il pourra voir tout de suite où est-ce qu'il en est par rapport à ses placements, par rapport à son abondement. Il peut tout de suite décider directement de verser de l'argent sur. Là, je te donne des infos en avant-première. Il pourra décider, par exemple, avec Apple Pay. Voilà, il reçoit une prime ou un truc qui, enfin, quelque chose sur son compte. Il a envie de le verser sur son plan d'épargne retraite collectif ou son plan d'épargne entreprise. Il peut le faire directement via son portable. Donc là, on arrive vraiment sur des choses encore, voilà, des prouesses assez technologiques, assez importantes. Et un service vraiment de qualité, conforme à l'éthique musulmane, de conviction et de qualité, qui sera proposé, Inch'Allah.
Ouais. Ouais, j'ai bien retenu moi l'abondement. Je pense que c'est ceux qui ont la possibilité d'avoir l'abondement, c'est je pense c'est
Exactement.
le jackpot, hein.
Exactement. Et c'est vraiment une solution clé en main. C'est-à-dire que même pour le chef d'entreprise, en fait, toute cette partie rédaction des accords de convention, mise en place, ratification, toutes ces choses-là, on s'en occupe en fait. C'est-à-dire que Pérénice se chargera de vraiment lui donner, pour celui qui le souhaite, hein, qui souhaite faire passer par nos documents. On a vraiment toute une panoplie de documents réglementaires et juridiques qui lui permettent assez rapidement de rentrer dans des choses standards qui protègent le salarié et l'employeur et qui permettent de mettre assez rapidement une convention et mettre en place de l'épargne salariale assez rapidement.
Ouais. Et l'entreprise a-t-elle des avantages à rajouter une partie si un employé investit dans l'épargne retraite collectif? Est-ce qu'il y a un avantage fiscal pour lui ou?
Non, c'est surtout pour en fait, ça lui. Imaginons, j'ai envie de te donner 1 000 euros de bénéfice, de 1 000 euros de prime. Bah, moi, si je veux te donner 1 000, il faut que je paye 2 000, tu vois,
Oui.
pour que toi, tu puisses toucher 1 000. Alors que là, si j'ai envie de te donner 1 000, bah, si je veux te donner 1 000, je te donne 1 200, quoi. Tu vois, donc
Ouais.
en termes de coût pour une prime, surtout pour les personnes importantes de l'entreprise, celles qu'on veut fidéliser, qu'on veut garder, qui produisent et
Ah, d'accord.
qu'on veut fidéliser, bah c'est quand même assez important parce qu'au final, ça permet de dépenser beaucoup moins et que lui, il touche vraiment cette prime-là directement. Et ça, c'est assez intéressant, puisque ça, en fait, il ne faut pas raisonner. Là, on raisonne de l'autre côté. J'ai envie que le salarié touche 2000 euros de prime dans sa poche, tu vois.
Ouais, d'accord,
Parce
ok,
que
je
tout à l'heure,
vois.
on a raisonné, je verse 1000, il touche 500. Tu vois, un salarié, tu le rencontres en fin d'année, tu lui dis, écoute, je te donne 500 euros de prime nette. Si c'est donné, il a vraiment performé, tu vois, c'est pas top. Mais quand tu lui dis, j'ai déversé 2000 euros, mais bon, ça passe par ton. Tu vois, déjà, 2000, c'est déjà beaucoup plus que 500. Bah, après, ça passe par ton départ en entreprise, c'est bloqué pendant 5 ans. Il y a des cas de déblocage aussi, mais quand même, 5 ans, c'est pas loin. Et tu veux dire, je touche 2000 euros dans 5 ans ou je touche 1000 euros tout de suite. Bon, il y en a qui vont te dire, je touche 1000 euros tout de suite. Ça dépend de la situation de la personne. Mais généralement, on va plutôt se dire, je touche 2000 euros dans 5 ans. Et c'est investi, c'est-à-dire que 2000 euros, potentiellement plus parce que l'argent travaille
En
pendant
plus, ouais.
ces 5 ans. Exactement.
Là, c'est un très bel outil. En tout cas, ça a l'air d'être un très bel outil. Et pour est-ce que c'est possible d'aller voir son directeur des ressources humaines ou dans sa propre entreprise pour essayer de pousser pour qu'il puisse proposer cet outil financier?
Exactement, exactement, c'est possible. Bon, après, pour l'instant, on n'a pas encore tout préparé. Là, l'idéal, on a déjà, pour être tout à fait honnête avec toi, puisque, comme je te le dis, maintenant, on commence à, bah, avec 10 ans d'existence, on a quand même une base de données assez solide en termes de chefs d'entreprise, de cadres et de salariés de façon générale. Donc là, on a déjà quelques clients pilotes avec qui on va mettre en place des plans d'épargne collectif pour cette fin d'année. Donc, des belles entreprises, hein. De 200, 300 salariés, voilà, qui salariés confondus, hein, mais dont les dirigeants sont de confession musulmane et qui souhaitent mettre ça en place assez rapidement. Donc ça, c'est déjà la première cible, on va dire, dans un premier temps. Et après, effectivement, tous les salariés qui souhaitent voir leur entreprise proposer ce type de solution peuvent effectivement, il y aura très certainement une brochure. Le site est en train d'être revu pour intégrer cette partie épargne salariale. Il y aura très certainement une brochure qu'ils pourront directement télécharger, qui expliquera l'offre et où il y aura nos coordonnées. Ils pourront se mettre en contact directement avec nos conseillers spécialisés dans l'épargne salariale et qui pourront directement les contacter, venir présenter l'offre et puis ben, si tout est OK, la mettre en place. Mais effectivement, c'est possible. C'est tout à fait possible. Il ne faut pas hésiter à en parler. C'est une offre, comme je le disais, qui peut s'adapter à tout le monde, qui permettra à ceux qui recherchent des solutions de conviction sans rendre mollie à des instruments de dette de trouver leur compte. Et aux autres, ils pourront aussi continuer à épargner comme eux, ils avaient l'habitude de le faire sans souci.
Très bien. Mais écoute, Hassan, j'en ai terminé avec les grandes questions par rapport à cet épisode. Si les auditeurs ont des questions, ils veulent investir ou quoi que ce soit, où est-ce que tu les rediriges?
Alors, pour me contacter, c'est ça? Ou plutôt pour.
Pour te contacter, s'ils veulent investir, est-ce qu'ils doivent passer par
Ah oui.
70
Ah,
Pérennis?
oui. Alors, ils peuvent passer par 570 ISI, effectivement. Ils peuvent aussi passer directement sur notre site internet. Il y a un petit formulaire, contactez-nous. Donc, ils verront, hein, ils peuvent choisir
OK.
le besoin. Donc, ça peut être de l'épargne collective, de l'épargne individuelle. Et on les recontacte. On a une équipe de conseillers qui les recontactent dans les 48 heures. Et en fonction de leur position géographique, on les redirige vers le conseiller le plus proche, soit un conseiller de Easy, soit des conseillers du réseau de distribution. Donc voilà, ils peuvent nous contacter. Après, moi, je suis assez actif sur LinkedIn. Donc, ils peuvent me contacter directement. Hein, c'est Hassan Nassiri. Sur LinkedIn, ils verront tout de suite. J'ai bien mis que je travaille chez Pérennis, donc ils peuvent me retrouver assez rapidement. Et puis, bah, sur LinkedIn, il y a aussi mon numéro de téléphone. Sinon, mon adresse mail, c'est h.nassiri, donc Nassiri. @perinis.com, pareil, je suis assez réactif, donc ils peuvent me contacter aussi directement, Inch'Allah.
Super, bah écoute, je mettrai tout ça en description. Pour terminer, trois petites questions, Hassan. Est-ce que tu as des routines que tu suis régulièrement et qui t'aident à progresser, qui t'aident à garder l'énergie?
Alors, des routines qui m'aident à progresser, que je fais au quotidien. Alors, j'aime bien jouer au foot, je suis un grand fan de foot. Donc, j'essaye de maintenir à un five ou deux par semaine avec bah, des amis hein, maintenant, Amine Naïdaoud notamment et d'autres gens de chez Easy qui sont devenus maintenant hein, des amis si c'est de la famille. Sinon, de façon générale, j'aime bien. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, j'essaie de lire, mais j'ai pas beaucoup de temps avec le rythme qu'on a, c'est assez compliqué. Mais j'essaie d'écouter des livres audio, une application qui s'appelle Kobler plutôt. où il y a des résumés de livres. J'essaie de mettre ça quand je fais le ménage, quand je travaille dans mon jardin. J'essaie de mettre un petit livre en audio et ça permet à chaque fois d'apprendre, de continuer à apprendre. Sinon, d'un point de vue spirituel, j'essaie de me fixer aux évocations plutôt du matin et du soir. C'est une routine que j'essaie de conserver. Et maintenant, ça fait plusieurs années que je m'y tiens. Et voilà, c'est une routine que j'essaie de conserver au maximum.
Super. Est-ce que tu as des recommandations ou une recommandation d'un ou deux livres qui t'ont particulièrement marqué?
Alors, un ou deux livres qui m'ont particulièrement marqué. Alors, particulièrement marqué, on dirait alors, qui m'ont plutôt. Ouais, je ne sais pas s'ils m'ont particulièrement marqué, mais qui m'ont particulièrement intéressé, oui. Parce que ceux qui m'ont marqué, c'est généralement plutôt relié à notre religion, mais sinon qui m'ont particulièrement intéressé, il y a la stratégie du dauphin de Dudley Lynch. Je ne sais pas si tu as
Non.
déjà eu l'occasion de le. Assez intéressant, c'est surtout pour les managers, pour les personnes qui dirigent des entreprises ou qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou surtout qui managent des personnes. C'est assez intéressant. En gros, l'idée, c'est que dans la vie, il faut être un dauphin. Il ne faut pas être ni un requin, ni un carpe. Il faut plutôt être un dauphin. Et le dauphin, en fait, il vit en communauté. Il arrive au salut tout seul. C'est quelqu'un qui est dans l'océan, mais qui essaie d'avoir son territoire et d'évoluer dans son territoire. Et je pense qu'il y a quand même dans ce livre des choses assez intéressantes d'un point de vue qu'on peut aussi répliquer sur notre éthique, nos valeurs, à savoir qu'on ne peut pas se faire tout seul, on a besoin des autres. Mais on doit aussi prendre en considération tout ce qui est autour de nous. Donc, on ne peut pas vivre qu'en communauté. On est une communauté, mais on vit aussi avec d'autres communautés. On interagit avec d'autres personnes et tout ça doit être pris en considération dans notre évolution au quotidien. Et ça rejoint un peu ce que j'ai dit par rapport à Pérennis et notamment au fait que les valeurs promues par la finance conforme à l'éthique musulmane, finalement, tout le monde peut s'y retrouver à un moment donné. Et typiquement, avec le plan d'épargne entreprise et le plan d'épargne retraite collective, on a essayé de faire en sorte à ce que chacun puisse choisir ce qui lui convient le mieux et qu'au final, il puisse avoir une alternative s'il le souhaite ou s'il ne le souhaite pas. Donc, je trouve ça assez intéressant et les leçons qui sont dedans sont assez intéressantes pour toute personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat aussi, puisqu'au final, ça revient sur le fait qu'il ne faut pas essayer de. Tu vois, typiquement, pour finir encore par rapport à notre secteur, là, il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'il faut. Moi, quand je parle avec des personnes par le passé, des clients, ils nous disent, ouais, mais pourquoi vous ne lancez pas une banque? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas une banque? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de banque, tu vois? Bon, je pense qu'ils ne savent pas ce qu'il faut pour faire une banque. Ça, c'est la première chose. Et puis, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on commence généralement petit. C'est-à-dire, il faut essayer de cibler ton marché, avancer avec ton marché. Et petit à petit, en fait, automatiquement, ça va suivre. Et dans ce livre-là, c'est ce qu'on explique exactement. C'est que tu peux pas tout de suite arriver et proposer quelque chose pour l'océan. Tu dois proposer quelque chose pour ton petit bassin et après ton petit bassin va s'agrandir petit à petit jusqu'à ce que tu puisses aller après dans le grand océan. Mais tu viens pas avec un océan directement. Et donc là, c'est
C'est
à peu
beau.
près pareil. Donc on commence petit, on essaie de fabriquer des petites choses, on les teste, on recommence, on reteste, on recommence et petit à petit, on voit, on regarde derrière, on voit qu'on a fait du chemin et on voit que ça continue, ça grossit et petit à petit, il y aura assez de produits et la banque viendra peut-être, mais on ne commence pas par la banque, on commence toujours par petit.
Très bien. La dernière question, mais tu as déjà répondu, c'est comment te suivre, te contacter. Donc, tu disais LinkedIn, tu as donné ton email, ton adresse email que je mettrai en description, Inch'Allah, et ton numéro de téléphone aussi sur LinkedIn.
Exactement, il y a mon
Donc, je
numéro de
pense que
téléphone
voilà.
assez joignable, donc n'hésitez surtout pas, si vous êtes pas de passage à Paris, on est à côté de la mosquée de Paris, rue Poulévot, donc pas loin du Jardin des Plantes. Voilà, n'hésitez surtout pas, un café, un déjeuner, avec grand plaisir.
Excellent. Bah écoute, Hassan, je te remercie beaucoup pour ton temps. Ça a été une longue interview. Les interviews autour de la finance islamique, c'est toujours assez long. Il y a tellement de choses intéressantes à développer. Mais là, je pense que c'était nécessaire avec tous les produits financiers super intéressants que vous avez. Et puis, si parmi les auditeurs, vous avez des questions pour développer un peu tout ça, n'hésitez pas à contacter encore une fois les conseillers, donc Hassan directement, ou bien aller voir un conseiller de 570 Sizi ou de Pérénice. Ils se feront un plaisir de vous orienter, Inch'Allah.
Charme.
Sinon, Hassan, je te souhaite tout le meilleur, que Dieu mette la baraka dans votre entreprise, dans vos projets et vous facilite le développement de vos projets, Inch'Allah.
Barakallahu fik, pareillement. Je te fais les mêmes doigts qu'Allah mette la baraka dans ton podcast, dans ta vie de façon générale, dans ta famille, et qu'il compte tout ça parmi
Amin.
nos bonnes œuvres.
Ajmain. Hassan, je te dis à bientôt, Inch'Allah. J'espère te rencontrer à Paris quand je passerai cette fois. J'ai un contact de plus à Paris à rencontrer.
Avec grand plaisir.
On se rencontrera sûrement avec Amine hein, et Anas.
Avec grand plaisir. Ceux qui m'ont déjà rencontré te le diront, je connais des très, très bonnes adresses. Je suis un grand, grand. Donc, on ira se faire un bon resto, Inch'Allah.
C'est bon, ça. J'aime entendre ça. Merci beaucoup, Hassan. À très vite.
Assalamu
alaikum.
Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.